Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Au bout du foot pour ce 25 novembre 2024. Avec nous aujourd'hui pas mal de monde, des revenants. On va passer, on va présenter tout le monde, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous allez bien en tout cas et j'espère que vous êtes bien installés pour suivre cette émission qui va commencer avec. On va commencer sur la Ligue 1. Avec Marseille qui se relance avec une victoire, le Paris Saint-Germain qui gagne aisément. On va commencer avec tout ça, rentrer dans le vif du sujet avec la Ligue des Champions qui va suivre juste après. Et avant ça, le tour de table. Alfred, le retour. Comment ça va, Alfred ?
Ça fait plaisir de vous retrouver. C'est vrai qu'à un certain moment donné, vous m'aviez manqué. J'étais pris par rapport à mes activités professionnelles, mais aujourd'hui, je suis content de vous voir.
Merci, on est aussi content de te voir, Alfred. Ça va, les activités professionnelles, ça se passe ?
Ça se passe très bien, on est à cheval dessus, on se bat comme on peut, mais surtout on n'oublie pas de penser à vous, parce que la chaîne me manque, donc il fallait que je sois présent aujourd'hui.
Merci Alfred, c'est la grande rentrée pour toi Alfred.
Tout à fait.
Voilà, franchement tu nous as beaucoup manqué, on t'a pas vu depuis, mais franchement on a plaisir de t'écouter et on va suivre aussi toutes tes analyses que tu as marquées sur ton bloc-notes, du coup on verra ça juste après. Merci Lucas, infiniment. Comment ça va ?
Moi ça va super. Pas de bloc-notes, mais tout est en tête, prêt pour l'émission.
Prêt pour l'émission comme toujours.
Toujours.
Super. Maxence, ça t'étais en petites bien. Vacances, ça s'est bien passé ?
Exactement, ouais.
Tu ça t'es laissé pousser, c'est à cause des problèmes de l'OM que tu t'es laissé pousser la barbe.
Non, ça va être réglé rapidement cette histoire, on est en fin de mois là. Mais, mais on va partir sur des bonnes bases début décembre, et là on se fait une belle semaine de foot à venir, avec des champions qui est de retour.
On espère, avec beaucoup de gros chocs, on reviendra tout doucement là-dessus. Et Alexandre, qui n'a pas quitté sa place, ou qui s'est juste déplacé,
qui n'a pas quitté sa place,
qui était là dans Mon Paris Sport avec Philippe et qui poursuit tout de suite avec Au bout du foot. Comment ça va, Alexandre ?
Bah, ça va très bien. Et toi, ça va ?
Ça va. Moi, ça va super pour le mieux.
Hein. Bah, parfait. J'ai hâte de voir cette semaine de Ligue des Champions, comme a dit Maxence. Et puis, parce que la trêve, bon, c'est toujours compliqué, mais bon, là, on est de retour avec le foot de club et ça fait plaisir.
Ouais, c'est vrai que la trêve, c'est pas toujours joyeux et c'est pas toujours des beaux matchs à voir. Et là, on est heureux de retrouver les clubs et la compétition avec tout ce qui s'est passé ce week-end aussi. On va revenir là-dessus avant de se projeter sur la Ligue des Champions. On va revenir sur tout ce qui s'est passé et bien évidemment, on va revenir sur ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end, juste après la petite virgule. Ligue 1, Marseille qui se relance avec une victoire 3-1 à Bollaert avec des faits de jeu un peu... en tout cas, Will Steele n'était pas très, très content à la fin du match. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-0 assez aisément face à Toulouse. Premier match sur le banc rennais pour le retour de Sampaoli en Ligue 1. Première défaite et toujours pas de but depuis 3 matchs pour les rennais. Qu'est-ce qui ne va pas ? On va poser la question aux chroniqueurs. Et bien évidemment, on va aussi parler de Monaco qui enchaîne et reste deuxième pour l'instant en tout cas. Et je voulais savoir quels sont vos faits marquants de cette journée de Ligue 1. Lucas.
Moi, mon fait marquant, c'est la victoire de Paris. On entend beaucoup que, soi-disant, cette année, Paris aurait un effectif moins fort que les autres années, qu'il y aurait moins de marge par rapport à la concurrence. Et en fait, on voit que Paris, même en trottinant, marche sur la Ligue 1, 3 buts à Toulouse sans forcer. Je trouve qu'on est un peu dur avec l'effectif de Luis Enrique cette année. Il y a quand même de très très belles choses qui ont encore été montrées. Et même hier, il y a Barcola qui ne fait pas un grand match. On voit que tout le reste de l'équipe est au diapason pour une victoire assez facile. Paris Caracol en tête de Ligue 1. Et je pense qu'ils sont partis pour remporter un nouveau titre assez facile. Donc voilà, je vois encore... Je comprends pas très bien les critiques qui sont parfois faites au PSG, même si on sait qu'ils ont du mal en Ligue des Champions. On voit quand même que collectivement, il y a un truc qui se crée et que ça va dans le bon sens. Et j'ai bien aimé la performance de Monaco aussi, qui a marqué, qui s'est bien relancé par rapport à ses derniers matchs. Akliouche qui montre que vraiment il est en feu en ce moment, il s'impose vraiment comme un des meilleurs joueurs de cette Ligue 1, et donc ça m'a fait plaisir.
On est juste au tiers encore du championnat. Et toi, tu plié, vois tout de suite, plié, pour toi, c'est plié. 6 points d'avance sur Monaco. Plié, pour toi, personne
plié.
Ne revient.
Non, c'est plié.
Ok, c'est clair. C'est enregistré le 25 novembre. Vous avez déjà le champion de août au bout du foot, grâce à Lucas. Alfred.
Je vais rejoindre parfaitement Lucas. Il faut reconnaître que Paris n'a pas des grands leaders, mais dans l'ensemble, je pense que Paris va dominer le championnat. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, Paris est en mesure de gagner ce championnat. Donc je reste positif sur la fin du championnat que Paris va gagner. Après, dans la hiérarchie, Marseille, Monaco. Mais Monaco a eu quand même une belle semaine. Donc faut saluer toutes les remontées de Monaco. Mais quand on suit le classement dans l'ensemble, la hiérarchie est respectée. Il n'y a pas Lyon qui est en dessous. Pour moi, les trois grands clubs, c'est Marseille et Paris, Marseille, Monaco. Pour moi, voilà.
Et pour toi, ce que tu vois côté Paris Saint-Germain, ça te va bien?
Oui, pourquoi? Parce que tous les joueurs qui sont en ce moment-là recrutés s'intègrent. Il n'y a pas de star comme il se devait avant, où par exemple, les gens, il y avait un peu de frustration par rapport à ceux qui étaient là. Donc, il n'y avait plus de clan. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde devrait suivre la ligne de l'entraîneur. Les critiques, certes, mais jusqu'à présent, Paris domine le championnat, donc c'est ça qu'il faut respecter. Il n'y a pas de club qui pourrait vraiment titiller Paris, Marseille, Monaco, mais reste-t-il que Paris est toujours au-dessus. Donc ça va toujours continuer pour moi. Donc espérons que ça continue, et puis on verra par rapport quand on va aborder la Ligue des Champions. Donc pour moi, la traite, ça ne va pas grand-chose, parce que même si Paris devait avoir des blessés, il faut toujours compter sur Paris. Moi, je pense qu'ils vont dominer le championnat.
Merci Alfred. On va revenir juste après. Hein. C'est le Paris Saint-Germain qui va affronter le Bayern de Munich à l'Allianz Arena. Hein. Bayern de Munich, un club qui te tient particulièrement à cœur, Alfred.
Tout à fait.
Tu nous diras après, toi, ton cœur balance plus à droite ou à gauche et on débattra de tout ça. Alexandre.
Pour répondre à ta question, il y a quand même pas mal de résultats marquants, je trouve, cette journée. Après, même si le classement n'a pas tant bougé que ça, je trouve ça intéressant de voir que les premiers du championnat ont gagné leur match. Paris 3-0 contre Toulouse, c'était un sujet maîtrisé. En plus, il ne faut pas tirer de conclusion hâtive, mais je suis content que Safonov fasse un énième clean sheet comparé à son concurrent direct. Et donc voilà, Paris, c'est une performance maîtrisée. Je suis d'accord avec Lucas, Monaco. Je trouve ça bien qu'ils puissent, parce qu'ils ont eu une période un peu compliquée, mais là ils reviennent bien avec Akliouche et Ben Seguir, les deux joueurs de côté qui pour moi font vraiment une très bonne saison. Lyon, c'est le résultat décevant par contre, puisqu'ils font un partout contre Reims. Donc c'est toujours dommage, Lyon qui n'arrive pas à installer une bonne dynamique, une bonne continuité. Nice qui gagne contre Strasbourg 2-1. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne performance des Niçois. Et pour finir, Lille qui gagne 1-0 contre Rennes. Donc on en parlera peut-être un peu après. Mais je trouve ça bien que Lille fasse le plein avant la Ligue des Champions. Et oui, dernier résultat, c'est forcément Marseille qui gagne 3-1 contre Lens. Je trouve ça bien. De toute façon, on a vu aussi que Marseille, c'est, je crois, l'équipe qui a gagné le plus de points en Europe à l'extérieur. Mais donc on voit bien que c'est à domicile qu'il y a un problème.
L'une des équipes qui
a gagné plus de points à l'extérieur. Et donc, je trouve ça bien que les locomotives aient gagné. Voilà.
Et pour toi, c'est un mauvais résultat, Lyon, de faire nul à Reims? Parce que Reims, quand même, c'est une belle équipe qui ont proposé du jeu depuis le début de saison. Et Reims, ils sont 8e quand même. 8e à 4 points, à 5 points du podium. Hein.
Ça reste un mauvais résultat pour moi parce que les Lyonnais, en fait, il faut qu'ils soient plus exigeants avec eux-mêmes, qu'ils essaient de s'instaurer une dynamique positive. On voit qu'en fait, c'est une équipe qui est là par intermittence, qui agit en dents de scie. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Là, ça va être compliqué finalement, le top 5 pour Lyon cette année, je pense. Là, ils sont 6e, il me semble.
Ils sont 6e, mais du podium de Marseille, qui sont 3e, ils sont juste à 4 petits points.
Oui, non, c'est vrai que l'écart comptable n'est pas énorme, mais en fait, quand je vois les équipes qui sont devant Lyon, je me dis qu'elles sont au-dessus, en fait, pour l'instant. Lille, Nice, Marseille, Nice, ça se discute, mais Lille, Marseille, Monaco, Paris, pour moi, je les vois au-dessus de Lyon. Et c'est ça qui... En plus, Lyon, on connaît toujours ces genres d'équipes qui va tout le temps perdre des points contre les petits. Constamment, ils vont réussir à avoir un nul au Groupama Stadium, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, moi, Lyon, j'aimerais bien qu'ils soient eux-mêmes plus exigeants envers eux-mêmes. Voilà.
Merci Alexandre. Maxence ?
Moi, je suis assez d'accord globalement avec ce qui a été dit, mais pour revenir sur Lyon, là, sur le débat, je ne suis pas persuadé que la production de Lyon soit très, très inférieure à celle de l'OM, par exemple. Pour bien suivre l'OM, c'est pas emballant. La victoire de ce week-end, elle est importante au niveau comptable, mais encore une fois, on a vu un OM à deux visages, une première mi-temps catastrophique, je pense une des pires de la saison, et une deuxième beaucoup mieux, où on a une équipe qui accepte de jouer en transition, de jouer avec ses qualités, avec Greenwood, avec Mopé, avec Luis Enrique, des mecs qui ont ce genre de qualité pour jouer en transition, et pas forcément un football de possession qui n'est pas adapté pour moi à cet effectif, pour l'instant en tout cas. Ce que De Zerbi veut mettre en place, on voit que ça ne fonctionne pas et qu'on ne prend pas le pli correctement. Et donc voilà, pour moi, je n'irai pas si vite dans mon analyse en disant que Marseille est bien au-dessus de Lyon. Que ce soit Marseille, Nice, je ne les vois pas au-dessus de Lyon forcément. Après Lyon, il y a ce qui va se passer au Mercato qui peut être très dérangeant pour eux. Ils ont besoin de vendre et un besoin de liquidité qui est assez important. Donc si demain on enlève Cherki Fofana à cette équipe-là, elle ne ressemble plus du tout à la même chose. Mais moi, la prestation de Lyon, pardon, je l'ai trouvée convaincante. Après, voilà, il y a des... Enfin, ils se font un peu braquer le match. Ils doivent le gagner. On a vu un Cherki qui a atteint un niveau. Là, on peut commencer à parler de régularité. Ça fait 2-3 mois qu'on le voit. C'est plus des coups d'éclat. Et là, son match, sa première mi-temps du moins, qu'il fait contre Reims, je pense qu'il y a très peu de joueurs en Ligue 1 qui ont la capacité de faire ce genre de prestations.
Avec des faits de jeu un peu, hein, des pénaltys non sifflés sur Lacazette, Malik Fofana, très discutable.
C'est pour ça que je ne me baserai pas sur le résultat uniquement, mais plus sur la prestation globale qui est encourageante à mon sens. À mon avis, Lyon a au moins de quoi faire aussi bien que l'OM et de les rattraper, parce que c'est pas, ou que Nice, hein, parce que voilà, c'est pas... Voilà, à voir aussi comment Lille jouera avec la Ligue des Champions qui risque de se prolonger, ouais, et la Coupe d'Europe, etc. Ça, ouais. Comment ils vont pouvoir
Monaco, hein,
jouer sur tous ces tableaux-là. Monaco, je les vois quand même un peu plus costauds dans cette mini-bataille, on va dire, entre la 2 et la 5, 6e place. Monaco, c'est ceux que je vois les plus solides et les plus forts globalement. Mais sur le reste, voilà, y a pas, pour moi, rien n'est encore joué. Et juste pour faire un petit retour par rapport à ce qui était dit par Lucas sur le PSG, je suis d'accord qu'il y a une marge très importante avec la Ligue 1 et que le PSG se balade et que le PSG sera champion sans aucun problème. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle, surtout quand on voit la performance du PSG en Ligue des Champions contre des équipes qui ne sont pas incroyables, que ce soit le PSV, que ce soit Gironde. Ce n'est pas du top niveau gratin européen.
Même l'Atlético de Madrid, tu peux le mettre même dedans, parce que le match qu'ils ont fait, il n'était pas ouf.
Oui, mais l'Atlético est un adversaire d'un autre calibre.
Oui, mais Paris Saint-Germain leur ont marché dessus pendant les 90 minutes. Et en vue de ils ne gagnent pas le match, c'est très inquiétant.
Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est plus la manière dont les autres équipes de Ligue 1 entament les matchs contre le PSG. En fait, là, on est face à des équipes, et je mets l'OM dans le lot, hein, et ce qui me pose un gros problème. On est face à des équipes qui démarrent le match en ayant déjà perdu. Et pourtant, en face, pour moi, il y a un PSG qui est plus prenable, qui a 3, 4 ans, ou même il y a 5, 6, 7 ans, quand avec Zlatan, Cavani, etc., ça roulait sur la Ligue 1, et ils arrivaient au parc pour en prendre 6, 7. Mais là, ce n'est plus le cas. Et pour moi, il y a des coups à jouer, comme le prouve Girona en Ligue des Champions. Je suis désolé, Girona, ce n'est pas bien plus fort que notre top 5 Ligue 1. Donc, il y a des équipes qui doivent être capables de montrer des choses contre le PSG et de proposer au moins quelque chose d'autre que Toulouse qui arrive là. Et Toulouse, c'est pas une de nos meilleures équipes, mais
ils ont bien tenu
là...
hein, excuse-moi de te couper, ils ont bien tenu jusqu'à la 85e minute. Ils étaient encore dans le coup, il y avait 1-0, ils tenaient un peu leur ordre de jeu un peu.
Il y a des grosses occasions aussi, ils ont fait des gros manqués, Toulouse,
oui, hein. Ils ont fait des, et il y avait pas cette envie, moi j'ai pas senti cette envie, cette fougue du côté des Toulousains qu'ils ont d'habitude à animer un peu plus le match, à l'emballer. Il n'y a pas eu ça, parce qu'il y a eu des buts, mais c'était même pas dans des temps forts du Paris Saint-Germain. C'était bizarre. Moi, le match-là, il m'a semblé bizarre. 3-0, mais c'est pas un 3-0 claquant, je sais pas.
Ouais, mais les matchs du PSG sont souvent comme ça. Même avec des équipes remaniées, 3, 4, 5 joueurs changés, il n'y a pas que des stars mondiales. Il n'y a pas un effectif de 20 joueurs de grande qualité qui font peur à tout le monde. Donc, j'aimerais un peu plus de panache de ces équipes-là qui vont au parc, c'est une fois par an, et qui... Essaye quelque chose, tenter quelque chose, un coup tactique, tenter d'aller les prendre à la gorge, tenter quelque chose, plutôt que d'arriver tout le temps défaitiste. Ouais,
après, je
ne
pense pas que ce soit si simple. Tu vois.
Ah, bien sûr.
Parce que la plupart des, quand tu regardes les conférences de presse des futurs adversaires ou des précédents adversaires de Paris, ils disent tous que c'est une équipe qui joue très bien, que c'est qui a toujours le contrôle du ballon, que c'est très compliqué d'aller les chercher. Donc au final, je pense que au final, ils jouent avec leurs armes, tu vois.
Ouais, mais quand ça joue en Ligue des Champions, c'est plus du tout le même discours. Je ne parle pas des matchs contre Arsenal, etc. C'est un autre niveau encore.
Et en plus,
Mais
quand
contre
tu
des
vois
équipes moyennes.
le match contre Arsenal,
C'est Donnarumma qui le perd.
Il se joue sur quelques
Non,
détails quand
sur la
même.
Première mi-temps, Arsenal est à sa
pendant,
main.
Pendant 20
Arsenal
minutes,
maîtrise.
Pendant 20 minutes avant l'ère Donnarumma, Paris est largement au niveau. Et moi, ce que je pense par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce débat, c'est qu'en fait, en Ligue des Champions, il y a quand même une intensité qui est supérieure. Et c'est là aussi où les grands joueurs peuvent vraiment s'exprimer. C'est là qu'avoir des individualités très très fortes, c'est indispensable. En Ligue 1, c'est moins important. Et c'est aussi pour ça que Paris a autant de marches sur la Ligue 1 pour moi et autant de mal en Ligue des Champions.
Non, c'est vrai aussi, ton analyse est bonne, mais pour moi, Giron ou le PSV, ils n'ont pas des grandes stars qui peuvent justement se mettre au niveau en Ligue des Champions et faire la différence. Donc c'est des collectifs aussi qui brillent et qui imposent à Paris une intensité, un défi dont ils n'ont pas l'habitude. Et pour moi, ça dessert et la Ligue 1 pour sa compétitivité et le PSG qui, à force de jouer des punching balls tous les week-ends, en semaine, quand ça joue un petit peu plus sérieux sans être dans le top du top, mais quand ça joue une équipe qui est sûr de ses forces à un PSV, c'est en difficulté.
Ouais, mais il faut pas oublier aussi que le Paris Saint-Germain, dès qu'ils entendent l'hymne de la Ligue des Champions, est-ce qu'ils n'ont pas cette pression aussi en plus et qui font qu'ils perdent un peu leurs moyens, Alfred?
Je ne pense pas. Paris est un habitué de la Ligue des Champions. Donc pour moi, ça ne doit pas être quelque chose qui doit faire peur à Paris. Maintenant, le problème, c'est d'être convaincant, d'être régulier comme les clubs. Parce que quand on parle des 8 grands clubs ou sauf des 10 grands clubs, Paris en fait partie. Donc c'est pas un championnat nouveau pour eux. Ils sont habitués, ils vont régulièrement. Donc après, maintenant, il faut de la présence, il faut être régulier pour ce qu'on fait. Enfin, pour moi, c'est ça. Moi, je pense que...
Et là, je suis d'accord avec Alfred. Et c'est là où je suis moins d'accord avec Lucas. Donc, c'est un habitué de la Ligue des Champions.
Tout à fait.
Il ne devrait pas du tout avoir peur de l'hymne de la Ligue des Champions. Mais c'est juste que c'est là que je vois qu'en fait, pour moi, il y a juste un problème d'individualité, de force, les joueurs sont moins bons en fait, l'effectif est moins bon. Et c'est là, moi, je suis pas d'accord avec toi, Lucas, parce que il manque en fait le joueur qui va te faire changer le match, tu vois.
Il manque un neuf, il est blessé, il s'appelle Gonçalo Ramos.
Mais oui, mais Gonçalo Ramos, tu vois, tu peux pas comparer Gonçalo Ramos à Haaland, Lewandowski.
Bah, il revient demain, on verra bien.
Bien sûr, mais
oui, on verra bien. Mais
là,
on l'a déjà vu.
Là, les personnes, enfin, là, toute l'Europe s'excite sur Gyökeres. La dernière saison que Gonçalo Ramos a fait à Benfica, elle est du calibre d'une saison que Gyökeres y fait. Il marque des super buts, il a mis son triplé en Coupe du Monde.
Je suis désolé de revenir. Elle est du calibre, oui, mais elle n'est pas de ce que Gyökeres fait.
Gyökeres,
c'est sur 2-3 années qu'il fait ça.
Bah, deuxième, c'est la deuxième.
Voilà, au moins, la deuxième où il explose les records.
Ah, sportif,
la deuxième où il explose les records. Il marquait déjà des buts. Parce que, franchement, tu fais une saison où tu mets 15-20 buts, tu fais une bonne saison. Mais là, il explose les records en toute compétition confondue. Il arrive avec la Suède, il claque un triplé. Bon, on va te dire, c'est l'Azerbaïdjan, pardon. Et. Mais avant ça, tu vois contre d'autres clubs aussi, contre l'Autriche, contre le Danemark, il joue, il marque. Il marque. Et tu vois qu'avec la Suède, il marque, il revient en club, il claque encore. Et,
Gonzalo Ramos, comme je
triplé contre Manchester City.
Gonzalo Ramos, il a mis un triplé en Coupe du Monde
contre la Suisse.
Exactement, c'est en huitième de finale. C'est un match éliminatoire sur la plus grosse scène mondiale. Je suis désolé. Et c'est pas des buts, c'était pas du n'importe quoi.
Non, c'est un très bon joueur.
Quand Gonzalo Ramos il arrive à Paris, je suis très très confiant. Là, il a été mal utilisé l'an dernier. On en a déjà parlé ici du problème Mbappé qui prenait beaucoup de place et qui empêchait l'expression d'un certain collectif. Mais moi, je suis pas certain qu'il manque tant de choses que ça à Paris. Et même si tu remplaces aussi la deuxième chose. Tu t'enlèves Fabian Ruiz et tu mets un vrai milieu de terrain qui assume son rôle de leader. Je pense que ces deux choses, avec le retour de Gonçalo Ramos, ça métamorphose les résultats de l'équipe, en fait, pas le contenu. Mais tu vois que contre l'Atlético, même contre Gérone ou contre le PSV, t'as 15 occasions. Il y en a Dembélé, enfin, on va en parler peut-être, mais il y a 3-4 situations qu'il ne peut pas louper, en fait. Et il l'a fait.
Donc,
sans, tu vois, sauf que quand t'as le but qu'il faut au bon moment. Toutes ces situations, elles n'existent pas.
Alors là, ça, là, tu prêches un converti.
C'est des faits de jeu.
Moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. C'est pour ça que des fois, je trouve qu'on est trop dur avec Paris, puisqu'au final, ils se procurent un nombre d'occasions qui est inimaginable, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le numéro 9 qui permet de marquer le but. Mais justement, Gonçalo Ramos est blessé, mais derrière, t'as qui? Tu vois, t'as Colomoini.
Très belle entrée de Colomoini contre Toulouse.
Non, t'as Colomoini,
Colomoini, le relance.
Mais Gonçalo Ramos qui revient, est-ce qu'il jouera?
Pas contre le Bayern, pas forcément, mais après la semaine suivante.
Est-ce qu'il préférera pas mettre Asensio en 9 comme il le faisait déjà?
Non, parce qu'il le mettait avant, Gonçalo Ramos. Parce qu'Asensio, on va pas se mentir, si vous regardez les matchs, mais il est complètement transparent.
Ah, il est à côté de la plaque.
Il est complètement transparent. Jusqu'en Guinly, il est pas mauvais, moi je trouve.
Quand mais pas en neuf.
Pas en neuf. Je suis d'accord.
Non, pas en neuf.
Quelques
bons
matchs en neuf en Ligue 1, mais ouais, quand milieu de terrain où il est droit à la place d'Embélé, il fait des très bons matchs cette année quand Guinly.
Mais quand ton meilleur joueur, en tout cas sur le papier, au début de la saison, tu te dis que c'est Ousmane Dembélé.
Ou Hakimi.
Non, mais je veux dire quand...
Offensivement.
Enfin, je veux dire, sur le papier, au début de la saison, tu te dis que la star, ça va être Dembélé de ton effectif. Quand ta star, c'est Dembélé, je suis désolé, là tu vois que ton effectif, il est quand même assez... C'est compliqué quand même.
Je vous trouve un peu dur. Mais bon, on va revenir rapidement sur les résultats de la 12e journée de Ligue 1. Nice qui se sont imposés face à Strasbourg avec un but contre son camp. Strasbourg qui ont aussi qui ont très bien joué face à Nice. Nice, c'est vraiment des faits de jeu qui ont fait qu'ils ont remporté ce match un peu plus ou moins avec des grossières erreurs défensives du côté de Strasbourg. Nantes, c'est encore la descente aux enfers avec une défaite 2-0 face au Havre. Auxerre qui se sont imposés 1-0 face à Angers, Lille 1-0 face à Rennes, Lyon qui se sont maintenus avec Reims 1-1, Saint-Etienne qui avec une petite victoire 1-0 face à Montpellier qui continue d'être lanterne rouge sans victoire, Marseille 3-1 face à Lens, Paris Saint-Germain 3-0 face à Toulouse et Monaco qui ont gagné à domicile face à Brest 3-2. Voilà, c'était tout pour la Ligue 1. On va sur une petite virgule avant de rentrer dans le vif du sujet avec la Ligue des Champions. Ligue des Champions, Brest qui vont défier un FC Barcelone en méforme sur sa pelouse, hein, parce que c'est le cas de le dire dernièrement, le Barça c'est pas trop ça, on va même évoquer pourquoi pas le cas, bon on va l'évoquer je pense pour la Liga, qu'on va arriver sur la Liga, parce que sinon là on va rentrer trop rapidement sur le Barcelone, mais voilà, Brest, est-ce qu'ils peuvent réaliser cet exploit?
Tu sais que l'an dernier et même en début de saison, j'ai dit beaucoup de mal de Brest. Enfin, pas du mal, mais j'ai dit que j'avais peur pour eux vraiment qu'ils perdent totalement pied. Bah écoute, vu ce qu'ils font, je pense qu'ils vont y aller sans complexe. Je ne vais pas forcément s'imposer, mais pourquoi pas sur un malentendu, gratter un nul. Même si le Barça de cette année, ça arrive de perdre des points en Liga, je pense quand même qu'ils sont en train de mettre la machine en route. Et que quand tout le monde est au diapason, donc en Ligue des Champions, ça devrait marcher. Mais bon, les Brestois, ils sont tellement surprenants depuis un moment que pourquoi pas.
Attention, il manque l'homme fort du côté... Oui, Lesmelou du côté de Brest. Mais Brest, en fait, ils ont tellement un effectif. Tu vois, ils avaient joué sans Sima, sans truc, etc. Ah ouais. Ils l'ont quand même fait.
C'est homogène à Brest.
Voilà, ouais. C'est pour ça que... Même pas, mais moi, j'irais plus du côté de Barcelone. Ils jouent sans l'homme fort qui est Lamine Yamal. Voilà, 17 ans, et qui est blessé. Et depuis qu'il est blessé... Il n'y a pas eu de victoire.
Mais après, pour moi, quand tu vois les performances qu'a fait Daniel Olmo en début de saison ou l'épaisseur que prend Rafinha, ça ne va pas être une excuse. Et quand elle est le FC Barcelone avec Lewandowski qui enchaîne les buts, ça ne va pas être une excuse de... Surtout qu'il a encore 17 ans. Donc ça ne va pas être l'excuse pour cet enchaînement de mauvais résultats. Il y a des blessés dans tous les grands clubs européens. Bah, ils sont dans le lot de tout le monde, le FC Barcelone. Ils doivent quand même s'imposer avec ou sans Lamine Yamal.
Merci Lucas. Alfred ?
J'ai écouté tout ce que vous avez dit, mais après tout, ça reste le Barça. Même si Brest partira avec une certaine motivation, quelle que soit la blessure de Yamal, ça ne va pas affecter le Barça de pouvoir gagner. Donc pour moi, le Brest ira défendre, ira remplir des formalités, mais je pense que le Barça sera largement au-dessus pour gagner ce match.
Ok, donc pour toi, il n'y a aucune chance pour Brest.
Non, Brest ne pourra pas tenir. Bon, pour moi, Brest va perdre.
Merci. Combien?
Je ne peux pas donner de score parce que non, Brest n'est pas un habitué de la Ligue des Champions.
Environ, ce que tu penses. Un résultat qui te semble raisonnable.
3-0, voilà. 3-0.
Vite fait. Ok. C'est pas mal, Alfred. Merci, Alfred, pour cette précision. Maxence?
Alors, depuis le début de la saison, je pense que Brest ne gagnera pas en Ligue des Champions. Donc, je ne vais pas changer. Sur les premiers matchs, c'était top. Sparta Prague, Sturm Graz, c'était génial. Franchement, je ne les voyais pas gagner avant. Ils ont fait l'exploit.
Leverkusen,
le nul à domicile, etc. C'est top. Mais là, s'ils vont gagner au Barça, il faut arrêter. On arrête tout. C'est bon, ça y est.
Ils prennent la Ligue des Champions.
C'est un des plus gros exploits de l'histoire du foot français. Si Brest va gagner au Barça, c'est... Non, j'y crois pas une seconde. très honnêtement.
Attention, Monaco les ont battus.
Non mais Monaco, Brest, on est sur deux calibres de clubs un peu différents. Monaco, c'était à domicile.
Monaco, là, on est battu Brest,
c'était en deux. Là, on est à Barcelone et puis c'était... Non, et puis Monaco, c'était... Oui, voilà, c'était un accident.
Si on regarde le match,
c'est un accident au début de match.
Non, on ne peut pas dire un accident. C'est un match de football.
Oui, mais c'est un match avec des
aléas. Ce qu'on va retenir, c'est que Monaco ont battu Barcelone.
Mais je ne crois pas que Brest va pouvoir le faire. Donc, si Brest le fait, par contre, c'est un des plus gros exploits du foot français que Brest aille taper le Barça à Barcelone. Mais voilà, je n'y crois pas. Avec ou sans Yamal, je pense que même en faisant tourner 3-4 joueurs, le Barça a des joueurs tellement différents. Et puis on voit un Brest qui n'est pas très convaincant quand même en ce moment. Hein.
Mais dès qu'ils arrivent en Ligue des Champions, ils se transforment. Hein. Ça devient le Real Madrid, hein. Moi ça me fait peur. Hein.
Contre des adversaires un peu plus faibles quand même. Là, leur vraie Ligue des Champions va commencer, même s'ils sont bien partis pour la qualif, etc. Et que c'est top. Mais on ne les a jamais vus contre un adversaire de ce calibre-là quand même cette saison.
Alexandre ?
Non, moi je pars du principe que là tout est possible en 90 minutes. Et qu'il ne faut pas oublier, bon, on en parlera tout à l'heure, mais le FC Barcelone reste quand même sur deux défaites. Deux défaites, dont une à la Real Sociedad où ils se sont fait marcher dessus. Et la deuxième hier, avant-hier.
C'est nul. Match nul de 2.
Oui, t'as vu.
Match nul, mais avant le match nul, tellement... je crois qu'il n'y a pas eu une défaite.
Si, si, Real Sociedad 1-0.
Avant la trêve, c'est
ça. Et il y a eu Osasuna après, avant.
Non, ça c'était bien avant, ça c'était au début de la saison. Ouais. Mais tout ça pour dire que voilà, là ils se sont fait remonter, ils gagnaient 2-0, ils se sont fait remonter de partout. Donc si Eric Roy travaille très très bien son sujet, pour moi, je vous dis, je pense que Brest peut aller accrocher un résultat parce que le FC Barcelone sans Lamine Yamal, c'est vraiment, vraiment différent et compliqué parce que le FC Barcelone, détrompez-vous, n'a pas une si grande profondeur de banc que ça et qu'ils sont obligés de mettre Dani Olmo en ailier et si c'est pas Dani Olmo, ils mettent limite Gavi en ailier gauche, en faux ailier. Donc, il faut faire attention et je pense que Brest peut accrocher un résultat. Le seul truc qui me fait totalement aller à l'encontre de mes propos, c'est que là, j'ai vu Eric Roy tout à l'heure qui a déclaré que peut-être qu'il allait totalement faire tourner histoire de reposer ses cadres et se concentrer sur la Ligue 1.
Ça donc peut être aussi un coup de bluff.
Voilà, c'est possible aussi. Mais à partir de ce moment-là, s'il fait tourner, je pense qu'il n'y aura pas match. Mais je pense que le FC Barcelone peut commencer une mauvaise passe. Et donc, Brest peut tirer un résultat. Ça ne me choquerait pas.
Mais un entraîneur qui tient des propos comme ça, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Parce que vous allez jouer la Ligue des Champions.
C'est du bluff.
Bah justement, ça peut être du bluff, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il y a une double lecture. Il y a une double lecture. Mais après, il répondait à la question du journaliste. Mais parce que le journaliste lui a demandé, est-ce que vous allez faire tourner? Et lui, il a dit, oui, je songe réellement à faire tourner. Donc, ça peut être du bluff. Mais moi, je pense qu'Eric Roy, quand même, qu'on le veuille ou non, il me fait penser un peu à tout ce qui est Genesio, à tous ces entraîneurs français. C'est-à-dire qu'il sait très bien s'adapter à son adversaire. Mm-hmm. Donc, quand il joue contre une équipe plus forte, il peut très bien faire déjouer les plans de cette équipe-là. Et donc, moi, ça ne me choquerait pas, en tout cas, s'il venait à déjouer le FC Barcelone.
Après, merci, Alexandre. On va passer au match suivant, hein. Le Paris Saint-Germain, qui vont aller à l'Allianz Arena, défier le Bayern, qui sont plutôt pas mal en ce moment. Mmh. Alfred, tu peux nous dire, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que le Paris Saint-Germain peuvent faire... Bon, on peut parler d'exploit ou pas ? Si je dis exploit, je me fais...
Non, pas un exploit. Tu vois,
gagner au Bayern,
un supporter du Paris Saint-Germain ne peut pas dire que c'est un exploit. Il n'a pas le droit de dire que c'est un exploit.
Brest qui gagne au Barça, c'est pas un exploit, mais le PSG qui tape le Bayern, c'est un exploit.
Non, mais qui a dit que Brest qui gagne à Barcelone, c'est pas un exploit?
Non, mais c'est quand même le PSG-Bayern, c'est la même catégorie de club, à peu près.
C'est dans le top 8, normalement.
Excusez-moi,
je me permets de dire que c'est un exploit si ça gagne au Bayern de Munich. Dans plusieurs choses, parce que dernièrement, en vue de ce que Paris Saint-Germain fait en Ligue des Champions, Gérone, PSV Eindhoven, Atlético Madrid, je me dis s'ils vont gagner au Bayern avec ce que le Bayern affiche en ce moment,
le mot est trop fort,
c'est un exploit.
C'est une très bonne performance, mais exploit peut-être.
C'est vrai que le contexte n'est pas favorable, en tout cas.
Alfred ?
Non, je vais rejoindre
Maxence
pour une performance. Mais à l'heure actuelle, je dis une chose, que le Bayern, même si ça domine le championnat allemand, n'est pas aussi convaincant qu'il se doit. Il faut être honnête. Et puis, Paris n'est pas nouveau dans la scène. Donc, c'est deux grands clubs qui se rencontrent. Donc, pour moi, voilà, le jeu sera ouvert. Après, si Paris part avec un complexe, ce serait quand même décevant pour un grand club. Le Bayern est un habitué, mais jusqu'à pour moi aujourd'hui, le Bayern ne m'a pas encore convaincu. Parce qu'il y a parfois des matchs où le Bayern se fait battre, se fait mener. Donc quelque part, voilà, le Bayern n'a pas encore retrouvé la vraie harmonie, la vraie cohésion au niveau du jeu. Ça mélange par-ci, par-là. Il y a des joueurs qui sont au Bayern qui ne sont pas titulaires. Donc quelque part, moi, pour moi, même la venue de l'entraîneur, vous savez, même c'est monté au niveau du système de jeu où parfois, par contre, quand le Bayern n'a pas la possibilité de défendre, quelque part, pour moi, je ne vois pas là où ça apporte quelque chose. Il a fallu, ma foi, quelques réactions pour qu'il change un peu le système. Ça commence à aller, mais de façon honnête, le Bayern n'est pas appelé à aller loin dans cette Ligue des Champions. Moi, je le dis de façon honnête. Hein. Ça gagne dans le championnat allemand, c'est vrai. Mais jusqu'à présent, pour moi, elle n'a pas encore convaincu. Parce qu'il y a des grands clubs qui sont là, qui ne sont pas encore entrés dans la scène. Même si City n'a pas encore un bon résultat en championnat, les grands clubs qui vont dominer la Ligue des Champions sont encore là. Hein. Pour moi, le Bayern, cette année, j'aime bien le club, hein, mais pour moi, elle ne m'a pas encore convaincu jusqu'à présent.
Merci Alfred. Et toi, tu verrais quoi comme score sur ce match ?
Le Bayern peut gagner, mais ça peut être nul si Paris ne baisse pas les bras. Ça, je le dis ouvertement. Ce n'est pas parce que Paris n'a pas réussi à convaincre jusqu'à présent. Mais, pour moi, le Bayern n'est pas... Honnêtement, au vu de ce qui s'est passé à Aston Villa.
À Aston Villa ou à Barcelone aussi.
Voilà. Donc,
leurs deux gros tests en Ligue des Champions, ils ont échoué.
Donc, moi, je ne peux pas être serein. De façon honnête.
D'accord. Merci Alfred.
J'aime bien mon club, mais jusqu'à présent, non.
D'accord. Et quand tu dis ton club, tu parles de Bayern.
Voilà. Je ne veux pas être chauvin face à vous, mais ce n'est pas le Bayern que j'ai vu il y a des années. C'est en phase de construction. Voilà.
Merci Alfred. Lucas ?
Moi, je veux quand même rappeler que c'est le début de saison. Si Alfred, il est supporter du Bayern de Munich depuis très très longtemps, il se rappelle qu'en 2001, je crois, ils prennent 3-0 par Lyon en poule avant d'aller gagner la Ligue des Champions en juin. Donc moi, j'aime pas tirer des conclusions en novembre. Et moi, de ce que je vois du Bayern, c'est un effectif qui progresse. Ils ont récupéré Olise à ce mercato. Ils ont Harry Kane qui fait sa deuxième saison. J'ai l'impression que tout se met en place, que Musiala continue à prendre de l'importance et que du coup, Gnabry, Sané... Et Coman en ont moins, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour le collectif du Bayern, parce que ce n'est pas forcément les joueurs qui sont les plus réguliers. Et derrière, on va voir ce que ça va donner, mais moi je ne suis pas du tout surpris si le Bayern ils sont en finale en juin prochain. Vraiment, de l'effectif avec Vincent Kompany, qui est un jeune coach qui arrive et qui a l'air de vouloir mettre des idées en place. Certes, sur leurs deux gros tests, je trouve que notamment sur Aston Villa, ils se sont bien bien ratés. Mais pour moi, le Bayern, ça reste un des ultimes favoris de la Ligue des Champions. Et Paris va vendre chèrement sa peau là-bas et je ne les vois pas forcément gagner. Je vois quand même Paris peut-être réussir à faire le match nul, mais dans tous les cas ça restera une grosse performance parce que le Bayern ça reste une référence européenne et je ne le vois pas moins fort cette année que les autres années précédentes.
Ça c'est ton avis?
C'est mon avis totalement.
Alfred ne le partage pas, en tout cas il l'a fait sentir. Alexandre?
Moi je suis plutôt d'accord avec ce que dit Alfred parce qu'il m'arrive de regarder les matchs du Bayern et quand on regarde les matchs du Bayern, on se rend compte que, OK, ils font des résultats en championnat, comme a dit Alfred. Mais quand tu compares ce Bayern-là au Bayern des années précédentes, notamment, moi je prends comme référence ces dernières années, en tout cas, au Final 8, où là, c'est un rouleau compresseur, vraiment, il roule sur tout le monde. Et même où l'époque de 2013, 2014, etc., où c'est vraiment une très très grosse équipe. Moi, là, quand je vois le Bayern, je me dis, OK, ça gagne, pas de souci. Offensivement, ça tient la route. Ils ont une profondeur de banc qui est plutôt bonne. Mais je me dis, en fait, défensivement, ça reste quand même fragile. Je me dis que c'est une équipe qui peut prendre l'eau, mais tellement facilement. Quand on voit la charnière centrale, c'est Kim Min-jae ou Upamecano. Si tu es intelligent, tu joues en profondeur, tu prends de la vitesse, ça peut faire très très mal. Neuer est sur la pente descendante. Kimmich, Goretzka, c'est pas non plus l'assurance touriste.
Bah, Goretzka n'est même plus titulaire.
Voilà, maintenant c'est limite Pavlovic qui joue, etc.
Pavlovic, c'est un très bon joueur, donc c'est un renouvellement d'effectif. Bien sûr, c'est un bon joueur. Si ça se régénère, c'est la marche logique aussi.
C'est un renouvellement d'effectif, mais alors là, moi je vois pas du tout. Après, je peux me tromper, on peut tous se tromper, bien sûr, c'est des spéculations. Mais moi, si je devais miser, je miserais pas du tout sur le Bayern Munich en finale de Ligue des Champions. Et c'est pour ça que moi, je persiste et signe que le Paris Saint-Germain a une chance contre ce Bayern Munich-là.
Merci Alexandre. Maxence ?
Pour moi, bien sûr que le PSG a une chance. C'est, comme je disais, le même calibre d'équipe. Après, là, on est sur une situation quand même où on a deux gros clubs. On dit souvent qu'avec cette formule de Ligue des Champions, on a le temps de se refaire, etc. Mais là, avec les parcours des deux équipes pour l'instant, on a le 17e face au 25e de cette poule-là. Donc si demain, il devait y avoir un perdant, cette équipe-là serait quand même dans une forme d'urgence pour les trois derniers matchs.
Surtout, et pour, si Paris, quand même.
Surtout si c'est Paris. Okay. Ouais. Surtout vu le calendrier, parce que le Bayern a un calendrier plutôt abordable sur la fin avec le Shakhtar, etc. Mais voilà, pour en revenir au Bayern, moi je suis assez d'accord avec Lucas. Pour moi, le Bayern est parmi les 4-5 gros favoris de l'épreuve. Et il y a eu un virage après le Barça où le score est gonflé. Pour moi, le Barça-Bayern, ça finit 4-1, il me semble. Ouais. Ça, c'est gonflé. Le Bayern a des occasions pour faire autre chose. Et le match peut tourner différemment avec 2-3
avec le coup du hors-jeu, quelques millimètres.
Exactement. Et
beaucoup de petits.
Et ouais, d'ailleurs, depuis ce match-là, ils ont joué 6 matchs. Ils n'ont pas pris un but sur ces 6 matchs-là. Donc demain, c'est test grandeur nature parce que c'est une équipe qui est un peu plus forte que ce qu'ils ont l'habitude de rencontrer en Bundesliga, mais pour moi, il y a quelque chose à faire côté Bayern demain et pour moi ils sont quand même grands favoris de cette rencontre là, pardon.
Merci Maxence, on va passer aux Lillois, les Lillois qui auront défié Bologne qui viennent de s'incliner face à Monaco, hein, voilà, et là les Lillois vont aller les défier chez eux. Alfred, qu'est-ce que tu penses, Bologne-Monaco ?
C'est un match qui sera ouvert. Après, comme je dis, Lille peut se défendre, même si ils vont se déplacer. Mais je ne peux pas donner un pronostic, mais je pense que ça devrait se solder par un nul.
Toi, tu vois un match nul là-bas. Okay. Toi, Lucas ?
Moi, je pense que Lille a quelque chose à faire. Je crois que Bologne, ils ont pris un point jusqu'à présent en Ligue des Champions. Ils sont dans les profondeurs du classement. Le fait que Thiago Motta soit parti, leur coach, ils n'ont pas forcément repris. Ils ont perdu des joueurs importants. Zirizi, ils ont perdu Calafiori. Donc j'ai l'impression que Bologne n'a pas réussi à bien se renouveler et à enclencher la machine comme il avait fait l'an dernier. Donc pour moi, si Lille arrive à s'imposer, ce ne sera pas du tout surprenant. Et j'espère qu'en fait, les Lillois, surtout, ils vont en se disant qu'ils doivent gagner. C'est bien beau de se dire, comme c'est la Ligue des Champions, on est des petits clubs français, etc. On doit faire un résultat, ce serait pas mal, blablabla. Non, il faut aller gagner, se dire, on doit le gagner ce match. Parce que Lille, ils ont quand même une expérience européenne qui est plus importante. Ils ont fait des grosses performances récemment. Voilà, ils ont eu l'Atlético Real, ils ont gagné les deux. C'est pas pour aller perdre à Bologne. Allez les gars, allez-y, gagnez, montrez que vous avez de l'ambition. Moi, franchement, j'ai envie que Lille aborde le match comme ça.
Merci Lucas. Bah, surtout qu'ils ont leur chance. Hein. C'est Bologne en face. C'est une équipe prenable. Hein. En vue de,
c'est totalement prenable. Que ce soit au niveau de l'effectif ou de la dynamique ou des ambitions qu'il peut avoir dans la compétition, Lille doit gagner ou doit avoir en tout cas. Après, tu peux jamais prédire un match, mais en tout cas, ils doivent montrer sur le terrain qu'ils sont là pour gagner. Ils doivent les presser dès le début du match et ils doivent faire en sorte de gagner. Moi, je vois Lille doit gagner ce match pour moi s'ils veulent continuer la belle dynamique qu'ils ont depuis le début de saison.
Merci. 100% d'accord avec ce qu'a dit Lucas. Parce que voilà, Bologne, on voit que c'est une équipe qui a du mal à maintenir la cadence entre Ligue des Champions et championnat. La preuve, là, je regardais leur match du week-end, voilà, ils ont perdu 3-0 contre la Lazio. Donc on voit que voilà, c'est une équipe qui est friable. Et à l'inverse, Lille fait le plein de confiance. En championnat, ils sont plutôt très convaincants. Et en Ligue des Champions, voilà, n'en parlons pas. Donc à partir du moment où, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as gagné ton match contre Rennes, certes, mais tu as gagné ton match du week-end, donc tu fais le plein de confiance, tu as des individualités qui en ce moment marchent sur l'eau. Pour moi, tu es Lille, au bout d'un moment, il faut arrêter. Tu dois aller chercher la victoire, tu dois aller chercher les 3 points. Et j'espère que c'est ce que Bruno Genesio va leur dire dans le vestiaire, que là, il faut gagner. Surtout que Bologne, c'est vraiment un adversaire prenable. Tu prends des points contre l'Atlético, contre le Real Madrid, contre la Juventus, et tu vas me sortir que tu vas venir jouer petit bras contre Bologne. Non, contre Bologne, tu dois gagner, tu dois montrer que t'es Lille, que tu vas aller chercher.
Moi, je quand même, excuse-moi de te couper, mais moi, je vous trouve quand même, je sais pas, là, à vous écouter, j'ai l'impression que Lille, c'est le Bayern. Je sais que vous êtes exigeant, mais Bologne, ok, il leur manque des joueurs, etc. Mais moi, quand je vois Bologne jouer, ils ont des occasions, ils se créent des occasions, ils font un match avant là contre la Lazio, à la mi-temps il y a 0-0, mais ils se prennent un carton rouge très rapidement.
C'est vrai.
Voilà, c'est ce qui fait aussi, c'est un fait de jeu. C'est donc vrai, là, ça. On voit, moi pour moi, c'est deux équipes qui se vaut. Lille, ils vont faire un match nul à Bologne, pour moi c'est un bon résultat. Hein. Pour moi c'est un bon résultat. Ah, match nul à Bologne, pour moi, c'est pas parce qu'ils ont accroché l'Atlético de Madrid,
match,
qu'ils ont battu le Real, etc., que aller gagner à Bologne, c'est facile. Hein. Je
en
pense pas
cas,
que c'est aisé.
On dit que d'avoir l'ambition de gagner.
Oui, non, ça c'est. ça c'est une chose.
C'est pas comme quand tu vas à Madrid ou à Turin, etc., où tu peux te dire là, bon, on va faire le mieux qu'on peut, mais dans tous les cas, ça reste des ogres européens. Tu as des ambitions qui restent limitées, même si tu vas toujours, pour moi, gagner un match quand tu le démarres.
Oui,
là, par contre, vraiment, quand tu joues Bologne, après ce que tu as montré, et si tu veux montrer que tu as de l'ambition et que tu es sur une continuité par rapport à ce que tu as fait avant la trêve, tu te dois d'aller sur le terrain en disant je veux leur marcher dessus, je veux gagner. Après, comme Alexandre a dit, il y a toujours des faits de jeu. Il peut se passer plein de trucs dans un match de foot, mais sur l'ambition, sur ce que doit montrer Lille, pour moi, ça doit être victoire.
Mais surtout que tu as des enjeux en plus, parce que si Lille gagne, ben là, ils sont vraiment bien embarqués pour le reste de la compétition, parce que les matchs avancent. Donc tu as quand même des enjeux, mine de rien.
Après, il ne faut pas oublier que cette physionomie de match-là, ce genre de match-là, c'est exactement les matchs que déteste Bruno Genesio. C'est-à-dire que...
Et les clubs français.
Et les clubs français au global, et spécialement Bruno Genesio.
De Fribourg-Lens l'an dernier en Europa League, ou Lens-Paume, alors que c'est pareil.
Et là, c'est tellement plus facile à aborder quand tu joues le Real, l'Atlético, la Juve, tu n'as quasiment pas de discours à faire. C'est vas-y les gars, allez-y, donnez
faites
tout.
Faites-vous plaisir,
c'est un match d'une vie, etc.
Tu joues contre le Real, tu n'as pas la même émotion, alors je pense, que quand tu vas jouer contre Bologne.
C'est ça. Et là, tu es Lille. Avec ce que tu as fait en Ligue des Champions, tu arrives avec l'étiquette de favori en disant on doit battre Bologne, comme on dit depuis tout à l'heure, on doit avoir l'ambition, etc. Et c'est ces matchs-là qui sont les plus durs à gagner pour nos équipes, parce que c'est là où Lille doit imposer son jeu, Lille doit se comporter en grand, entre guillemets, en Europe, et c'est jamais facile pour nos clubs français.
Mais est-ce que c'est pas un peu le drame des clubs français,
ah
justement?
Bien sûr,
Ce qui fait, ce qui explique aussi qu'on a autant de mal à gagner des titres en Ligue des Champions, Europa League, etc., c'est qu'on n'arrive pas à gagner ces matchs-là.
Bien sûr, c'est totalement ça.
C'est pour ça qu'il faut briser un peu le plafond de verre.
Niveau exploit, on en fait autant que les autres pays. Hein, taper des grosses équipes,
mais
ça arrive.
On n'a pas la continuité. On va faire un exploit et après on va paumer le match d'après. Et c'est pour ça que je dis dans l'ambition, Lille doit vouloir gagner et briser cette espèce de plafond de verre où on va faire un gros résultat. Derrière, on va perdre et qu'en fait, on est un peu irrégulier. C'est pour ça que voilà, moi je pense que Lille doit avoir l'ambition de gagner ce match absolument.
En plus, je vais aller plus loin parce que là, c'est justement Lille joue contre une équipe italienne et le championnat de France, en termes de droits télé, d'attractivité, etc., est plutôt en concurrence avec le championnat italien parce qu'on sait que l'Allemagne, l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre, c'est au-dessus. Tu te dois de te dire allez, ça y est, on est la France, on va essayer de passer devant l'Italie, on va essayer de montrer du galon, de taper du poing sur la table. Surtout que voilà, Brest est bien embarqué, Monaco est bien embarqué. Bon, il n'y a que Paris qui est un peu moins bien embarqué, mais le tirage n'était pas facile non plus. Donc voilà, t'es Lille, tu dois commencer le match en disant que tu vas gagner. J'espère on est tous d'accord, c'est que Lille, en vue de ce qui se passe depuis le début de la saison, depuis avant ce match-là, doit entamer ce match en disant il faut qu'on vienne chercher les 3 points.
Ouais. Ah non, ça c'est une certitude. Comme dans tous les matchs pour moi. Pour moi, n'importe
quel
match.
Alors qu'avant, justement, les équipes françaises avant, c'était pas comme ça, justement. Ils allaient en Roumanie, là, en Europa League, et ils se disaient bon, vas-y, on va prier, il fait froid, on va se concentrer sur le championnat. Alors que non.
C'est ça, on l'a beaucoup entendu ça. Hein,
bah oui.
On garde des forces pour le championnat, le calendrier est compliqué, etc. Non, il faut gagner.
Après, je pense que Lille, on peut leur laisser le bénéfice du doute. Ils ont quand même montré depuis le début de saison. Et ils ont réussi à enchaîner avec la Ligue 1 aussi, ce qui est fort. Après leur grosse perf européenne, et ça c'était pas donné.
C'est toujours bien placé.
Et c'est là où on attendait aussi, notamment Genesio, de pouvoir gérer de front les deux compétitions, et ils l'ont plutôt bien réussi. Donc là, ils vont capitaliser pour moi sur leur très très bon résultat et finir dans les 8 premiers peut-être, mais dans les 24 de manière certaine.
Ok. On va passer à la dernière équipe française en Ligue des Champions, Monaco, qui vont défier Benfica. C'est un beau match, hein. Moi je pense que c'est un gros match, hein. Benfica qui ont claqué 4-0 contre l'Atlético de Madrid là juste avant, mais ils sont qui trouvent qu'ils sont en forme, hein, avec Di Maria qui a claqué un triplé avec une bicyclette, franchement voilà, c'est du bon vin, hein. Vraiment Di Maria, c'est du bon vin, c'est la crème de la crème.
Qu'est-ce qu'il me manque au PSG, Di Maria,
extraordinaire. Di Maria,
c'est tout ce qu'on aime. Alfred, tu peux nous dire entre Monaco et Benfica, qui sont tes favoris?
Le Benfica a une très belle performance, il faut le reconnaître. C'est un habitué de la Ligue des Champions. Aussi. Mais aujourd'hui, je pourrais dire que ce sera un match qui sera très ouvert. Je ne peux pas sous-estimer les capacités de Monaco de pouvoir jouer en face. Donc pour moi, ce sera un grand match. Je ne vais pas donner de pronostic, je ne peux pas affaiblir Monaco. Je ne dis pas que Benfica partira avec un excès de confiance, mais les deux clubs jouent très bien. Pour moi, ce sera un match très ouvert. Voilà, je ne vais pas sous-estimer Monaco face à eux. Si réellement Monaco ne baisse pas les bras, il peut réaliser quelque chose. Ce serait un grand rendez-vous pour moi.
Merci Alfred. Lucas ?
Moi, je vais avoir le même discours à peu près pour Monaco que j'ai eu pour Lille face à Bologne. Ils doivent vouloir gagner. Après, Benfica, ça reste au-dessus de Bologne, mais Monaco, c'est au-dessus de Brest aussi. C'est le genre de match qu'ils doivent gagner. Ils ont réussi à battre le Barça
Alex l'a dit, il y avait des faits de jeu, notamment carton rouge qui arrive de façon assez précoce. Mais là, Monaco, pour moi, leur ligne offensive, ils commencent à avoir des certitudes. Là, avec Golovin qui revient, les trois Golovin, Ben Seguir et Akliouche, c'est vraiment du haut niveau. Ça se trouve très très bien. Techniquement, c'est fin, ça joue bien en foot. Zakaria derrière qui assume vraiment son rôle de leader. Je trouve que Monaco est vraiment en train de se construire une équipe qui est stable, avec un effectif où les leaders commencent vraiment à émerger. Donc pour moi, c'est le genre de match qu'ils doivent gagner. On voit que devant, ils ont plus de mal avec Mbolo qui rate beaucoup. Balogun qui est blessé et Ileni Kenna qui est encore très très jeune, même s'ils montrent des choses assez étonnantes parfois. Voilà, pour moi, Monaco, même si je pense qu'ils seront mis en difficulté par Benfica, qui reste une équipe très solide hein, et à des individualités qui sont assez extraordinaires. Je pense à évidemment Di Maria, mais même le jeune Thomas Araujo derrière en défense centrale. Il montre que c'est le futur du football portugais pour moi. Donc, ce ne sera pas un match facile, mais pour moi, pareil, Monaco doit avoir l'ambition de remporter ce match.
Merci, Lucas. Maxence ?
Je suis d'accord, Monaco doit avoir l'ambition de remporter ce match. Après, pour moi, c'est du 50-50. On a un Benfica qui, depuis le retour de Bruno Lage et le départ de Roger Smith, est vraiment bien, bien, bien meilleur. Ils en ont mis 4 à Porto il y a quelques semaines, qui les a plongés dans la crise d'ailleurs, complète au Portugal. Là, ils se sont fait éliminer de la Coupe ce week-end.
Mais ils sont quand même toujours devant Benfica au classement.
Oui, parce que Benfica avait fait un mauvais début de saison Roger Smith qui était hors du coup. Mais depuis que Bruno Lage est revenu, ils ont une petite défaite, c'est contre le Bayern 1-0 à l'Allianz Arena, qui n'a rien de honteux. Et au Portugal, ils sont bien remis dans le droit chemin. Donc pour moi, ce sera pas évident. Et on voit une équipe de Monaco récemment qui est quand même, enfin moi qui me paraît un peu moins en confiance que sur les premiers mois de compétition. Ils ont eu 2 défaites en Ligue 1 juste avant la trêve. Voilà. Même contre Brest, là, ils en prennent 2. Ils se mettent en difficulté un petit peu, même si le deuxième but arrive très tardivement. Mais ils se rendent pas la tâche aisée, alors qu'ils ont de la marge. Pour moi, ils sont bien au-dessus. Et ils sont pas dans leur meilleure période, à mon sens. Donc, je demande à voir. Ça va être un super test. Et puis, on sait que pour une équipe française... battre une équipe portugaise en Ligue des Champions, c'est jamais tâche aisée, que ce soit Porto, que ce soit Benfica, que ce soit le Sporting. Donc on va regarder ça avec attention. Et s'il y a victoire, ce sera une très très belle performance qui placera Monaco comme un outsider intéressant aux 8 premières places.
Merci Maxence. Alexandre ?
Non, franchement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je suis d'accord avec Alfred, ça va être un match, je pense, ouvert, parce que c'est deux équipes qui jouent au ballon. Et puis voilà, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, d'autant plus que la seule différence avec le match de Lille, c'est que là, c'est vrai que Benfica, c'est quand même un adversaire plus sérieux, entre guillemets, plus habitué de la Ligue des Champions, on va dire. Et ils n'ont pas le droit à l'erreur, en fait, parce qu'ils ont fait un mauvais début de saison en Ligue des Champions. Et s'ils veulent rester dans les 24, bah, il faut qu'ils gagnent ce match. Donc ça va être un match.
Ah, tu trouves que Monaco, ils ont fait un mauvais.
Non, Benfica.
Ah, Benfica, ok.
Parce qu'ils sont 17e ou 16e ou je ne sais plus trop, mais donc s'ils font une défaite.
Ça reste quand même dans leur standing, oui, ils ont quand même battu l'Atlético.
Ce que je veux dire, c'est que s'ils font une défaite, oui. Bah, ça va être plus compliqué pour eux. Donc voilà, faut c'est peut-être un peu moins exigeant que contre Lille, mais je pense que Monaco doit aborder ce match en espérant gagner les 3 points, d'autant plus qu'ils sont à domicile.
Merci. On va passer au dernier match qu'on va traiter de Ligue des Champions. Hein. Le choc, hein, vraiment, c'est le remake de la Ligue des Champions, la finale de Ligue des Champions 2022. 2022, on sait hein, beaucoup d'antécédents entre ces deux clubs-là. Et là, une équipe qui est en train de tout péter, qui est en pleine bourre, c'est Liverpool qui va jouer à Anfield face au Real Madrid. Et franchement, ça promet avec beaucoup de blessés du côté madrilène, hein, avec l'homme fort du moment, Vinicius, qui vient de se blesser. Et pas mal, hein, Tchouaméni, Carvajal, Eder Militao, Lucas Vázquez qui revient peut-être dans le groupe. Voilà, en tout cas, une hécatombe côté Real Madrid et Liverpool, eux, franchement, qui sont en pleine bourre et rassurant. Est-ce que Liverpool peuvent prendre leur revanche de toutes ces dernières années passées? Tu penses, Alfred?
J'ai un peu de réserve. Parce que le Real reste le Real, quel que soit les blessés. Le pronostic sera difficile parce que, bon, Liverpool, il faut bien comprendre que les Anglais joueront la motivation parce qu'ils jouent chez eux. Ça, il faut le reconnaître. Mais c'est face au Real, c'est pas face à un petit club comme Auxerre. Donc, je pense que. Pour moi, c'est deux grands clubs. Donc, je veux bien qu'on. L'idée de faiblesse des blessés, elle tient pas trop la route. Pourquoi ? Parce que bon, ça reste le Real, vous comprenez ? L'année dernière, le Bayern a subi. Il faut le reconnaître. Donc, pour moi, le Real a toujours des réserves. Après, Liverpool, il y a comment Moussala, c'est craintif. Hein, ouais. Faut reconnaître, faut pas le cacher. À tout moment, ça peut exploser. Donc, pour moi, jusqu'à présent, peut-être qu'ils jouent chez eux. Le Real peut légèrement subir, on ne sait jamais. Hein. Mais en tout cas, le Real peut réagir aussi. Hein, parce que jusqu'au coup de filet final, il faut attendre à quelque chose. Maintenant, si Liverpool montre une vraie suprématie, c'est possible. Bah, pour l'instant, là, je peux pas. Honnêtement, c'est de grands clubs. Voilà.
Merci, Alfred. Et Auxerre, les supporters Auxerre, moi qui te remercie aussi.
La balle perdue. Ouais.
Pour la balle perdue, hein, qui se sont imposés face à Angers, week-end dernier. Et Lucas.
Bah, tu vois, moi, je pense que Liverpool va gagner ce match. Et c'est toujours pareil. Je pense que si là, en novembre, encore une fois, c'est pas encore, tout n'est pas encore mis en place, Liverpool va gagner ce match, mais que s'ils se rencontrent en juin prochain, en finale ou en demi, c'est le Real qui passera, parce que c'est toujours la même histoire, ou presque. Donc je mets quand même, vu la dynamique du moment, je mets Liverpool quand même comme favori, même si évidemment, vu l'effectif et vu l'équipe que c'est, on n'enterre jamais le Real. Mais voilà, je serais pas étonné que Liverpool s'impose cette semaine.
Avec un Mbappé qui va retrouver le flanc gauche, qui a déjà retrouvé le flanc gauche week-end dernier, on va revenir sur la Liga juste après, mais il a retrouvé le flanc gauche week-end dernier, hein, et pour le plus grand bien, puisqu'il a réussi à marquer sur une passe décisive de Vinicius.
Sur une passe décisive, vous lui mettez vraiment un ballon magnifique.
Oui, oui, bien sûr, c'était un... Voilà, il pouvait pas faire mieux. Oui, plus qu'un caviar même, c'était un caviar servi dans la bouche. Mais en tout cas, Kylian Mbappé qui va retrouver le flanc gauche,
C'est un danger,
je pense. Ça peut être un danger, peut-être Real. Moins que Vinicius dernièrement, mais voilà. Tu nous diras, à ton avis, tu nous diras si c'est pour le Real ou pas. Alexandre, toi, qu'est-ce que tu vois ?
Moi, je suis comme Lucas. Je pense que je vois le Liverpool gagner parce qu'en fait, le grand absent, c'est Vinicius. Quoi. Vinicius, c'est quand même un joueur majeur du Real Madrid.
Qui a été décisif beaucoup de fois contre Liverpool ces derniers temps. Je n'ai pas les stats là, mais il a été buteur.
Le match, c'est vraiment le danger vient très très souvent de lui quand même, faut être honnête. Donc tu as rappelé tous les blessés qu'il y a, l'interrogation elle est aussi en défense centrale,
Asensio,
en défense peut-être. À droite aussi, peut-être qu'il va mettre Valverde encore latéral droit. Donc voilà, il y a beaucoup quand même d'interrogations. Les seuls points positifs du Real, c'est Bellingham qui a marqué, je pense que ça va vraiment lui faire du bien.
Et Brahim deux Diaz. Buts qui enchaîne.
Ouais. Ouais, deux buts. Et Brahim Diaz, franchement, ouais. Lui aussi, je pense qu'il va commencer titulaire. Ouais. Mais c'est vraiment un joueur différentiel. Balle au pied, quand même. Le gars est vraiment fort. Mais malgré tout ça, je pense que Liverpool va quand même gagner ce match. Parce que dans la dynamique, en fait, ils sont supérieurs. Et puis, t'as un joueur aussi, Mohamed Salah, qui est absolument extraordinaire. Donc, voilà, je pense que malgré tout, je mettrai une pièce sur Liverpool.
Liverpool, on rappelle que le Real Madrid doit impérativement gagner au moins 3 matchs sur 4 pour finir dans le top 8, espérer finir dans le top 8, ou ils doivent gagner 3 matchs sur les 4 derniers qui leur restent. Il leur reste l'Atalanta, je crois qu'il leur reste Brest, l'Atalanta, Brest, et Salzbourg, un truc comme ça, je pense, il me semble.
C'est abordable, que Liverpool.
Il me semble en tout cas, voilà. Mais du coup, ils auront cœur à faire un bon résultat à Anfield, même si on sait que ça n'est pas facile d'aller gagner là-bas. Maxence ?
Mais moi, je pense que déjà, les deux équipes sont pas du tout dans la même situation d'urgence. Et donc, je vois pas ça comme un test plus que ça, parce que le match le plus important de la semaine de Liverpool, il est pas mercredi, il est ce week-end contre City. Et là, ils peuvent quasiment mettre un gros coup sur le titre en prenant 11 points d'avance sur City, en les battant. Et là, ça mettrait pour moi KO City, qui remonterait pas 11 points comme ça. Donc, ils sont premiers de la Ligue des Champions avec 4 victoires en 4 matchs. Eux, pour le coup, ils vont pouvoir se permettre de gérer sur les 4 derniers matchs pour finir tranquillement dans les 8 premiers en laissant un ou deux comme ça sur le côté, alors que le Real ne peut plus se permettre ça du tout. Et le Real, s'il y a une fenêtre pour gagner, il faut qu'il la saisisse. Ils ne peuvent pas se permettre de jouer à moitié. Moi, j'ai des doutes quant à l'implication de Liverpool, parce qu'ils seront impliqués à 100%. Mais si ça devient un match très, très dur, très compliqué, je pense qu'ils se mettront pas dans le rouge forcément pour aller gagner ce match comme on gagne une demi-finale de Ligue des Champions ou quoi que ce soit. Donc c'est ça la différence entre les deux équipes. Le Real doit se mettre dans le rouge et doit gagner ce match, doit faire un résultat. C'est moins le cas de Liverpool qui a plus ce match-là comme un test grandeur nature avant leur gros choc contre City ce week-end. Donc voilà, après oui, au point de vue football et de ce qu'on voit depuis le début de saison, Liverpool paraît au-dessus du Real, surtout avec les forces en présence comme on l'a expliqué, bien qu'il y ait quelques absents côté Liverpool aussi, hein, Alexander-Arnold qui est sur le retour, Diogo Jota qui est blessé aussi, mais bon, c'est moins, beaucoup moins important que Vinicius l'est au Real Madrid. Donc je mettrais favori Liverpool, mais je ne serais pas non plus choqué si le Real va faire l'exploit dans un match où ils jouent à la vie à la mort pour leur avenir en Ligue des Champions.
Merci Maxence. Alexandre,
tu ouais, veux je voulais rajouter un truc. Bah, c'est vrai que de l'eau a coulé sous les ponts de ce que je vais dire, mais moi j'ai un indicateur, c'est quand même le match contre le Milan AC où j'ai... Là, le Real m'a vraiment surpris. Je ne les pensais pas capables de perdre de cette manière-là contre un Milan qui faisait vraiment une mauvaise saison. Là, je me dis, comme je me répète, mais sans Vinicius, ça va être vraiment difficile. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je mettrais vraiment Liverpool en favori. Et justement, je ne suis pas trop d'accord avec toi parce que je ne pense pas que Arne Slot, ce soit le type de gars à dire « Ok, on va gérer » ou je ne sais pas quoi.
Non, je ne pense pas non plus.
Je pense que là, pareil, Liverpool, quand ils vont commencer le match, en plus à Anfield devant leur public, ils vont vouloir gagner, marquer un gros coup et voilà.
Mais si j'étais lui, je gérerais quand même un petit peu, tu vois. Si je mène 1-0 à la 60e, 70e,
il fait un match nul contre...
Ça là, je viens l'asseoir.
Moi, je pense qu'il fait un match nul contre Manchester City ce week-end, c'est un bon résultat.
Ouais, bien
sûr. Il fait un nul, il le laisse quand même à distance.
Mais s'il gagne, il tue le championnat. S'il gagne, 11
oui,
points.
Oui, mais il le laisse même à 8 points.
On connaît la spéciale de City qui gagne 14 matchs d'affilée.
Sans Rodri, sans tout ça, c'est quand même
un bon résultat. Franchement,
c'est vrai que ça semble vraiment compliqué la City.
Non, là, on voit City, ils n'ont jamais enchaîné autant de défaites. Mais on va revenir. On va revenir sur la première ligue juste après. On va se faire une petite pause avant d'enchaîner avec la Ligue Europa. On n'oublie pas la Ligue Europa, hein, Lyon, Karabag, on va enchaîner et ensuite on arrive pour la Première Ligue.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou, l'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans l'émission Au bout du foot, il est 21h28 si vous venez de nous rejoindre. Nous allons enchaîner avec la Ligue Europa, avec Lyon qui vont défier Karabag à l'extérieur. Lyon qui sont favoris, hein, bien évidemment. Mais quels sont vos pronos? Attention quand même, Karabag qui peuvent peut-être poser des problèmes à cette équipe lyonnaise, hein. On rappelle, hein, Karabag, qui sont 29e, qui doivent impérativement gagner. Hein. Maintenant, ça devient des matchs plus importants. Lyon aussi, qui sont à la porte des 8e places, hein, qui sont 9e avec 7 points. Quels sont vos...
Moi, je pense que Lyon va gagner. Et je pense que Lyon doit gagner. On l'a vu là quand ils ont joué contre Fonam il y a quelques semaines, où ils ont vraiment raté beaucoup d'occasions. Et c'est ce qu'on disait un petit peu en début d'émission quand on parlait de Ligue 1. Lyon, ils sont quand même assez irréguliers. Et c'est dans des matchs comme ça qu'ils doivent montrer qu'il y a une progression de l'équipe. Ils ont quand même, on peut se questionner sur le visage de l'équipe après le mercato hivernal. Mais là, pour le moment, ils ont quand même un effectif qui est bien fourni. Donc que ce soit en quantité ou en qualité, ils ont des remplaçants qui peuvent faire le taf. Donc pour moi, il n'y a aucune excuse. Karabag, c'est 3-0 et puis c'est tout. Vraiment, non. Lyon, là, attends, ils ont... Le remplaçant, c'est Miko Tadze qui nous a fait un euro formidable, qui n'arrive pas encore à trouver ses marques. Mais c'est dans les matchs comme ça que tu peux un peu lancer ta saison aussi. Benrahma, qui n'est pas titulaire, ça reste un bon joueur. Nouama, quand il n'y avait pas Cherki, lui aussi, il a fait du bon travail. Pour moi, en plus, Nouama, c'est un joueur qui progresse. L'an dernier, on voyait qu'il était en difficulté, cette année, il progresse. Au milieu de terrain, ils sont aussi fournis. C'est un peu moins bien en défense. Mais voilà, Lyon, pour moi, même s'ils font tourner, ils doivent aller gagner à Karabag. Et pour moi, ils n'ont pas d'excuses. Lyon, c'est top 8, en fait. Là, pour le coup, c'est même en pas Ligue, le, sur pas, le match ouais. Là, ouais, c'est top 8. Ils doivent pas passer par un 16e de finale qui pourrait les embêter. Ils doivent avoir l'ambition d'aller chercher ce top 8 et rien d'autre vu leur effectif.
Merci. Lucas, Alfred.
Je vais partager l'avis de Lucas. Je pense que Lyon ne doit pas avoir de complexe. Je pense que Lyon doit être largement au-dessus et que ce n'est pas un grand rendez-vous pour Lyon, mais Lyon peut être à la portée, quel que soit le parcours en Ligue des Champions, en Ligue 1. Mais Lyon est largement au-dessus pour pouvoir gagner ce match. Je pense qu'il faut faire confiance à Lyon pour ce match-là.
Merci, Alfred. Alexandre.
Bah moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Lyon c'est top 8. Lyon doit en plus ils sont à domicile.
Non, à l'extérieur,
je crois. Non, c'est là-bas.
Ah, c'est là-bas, pardon. Ouais. Mais ah ouais, c'est... ouais. Mais bon, pour moi, ça, c'est pas une excuse en fait. C'est pas une excuse. Tu te dois de gagner ce match. Moi, j'aimerais vraiment que les. Même s'il y a un. Des fois, il y a un semblant de sursaut, on a l'impression. Mais moi, j'aimerais vraiment que les entraîneurs et les dirigeants prennent au sérieux toutes ces compétitions européennes parce que c'est important. C'est important, ne serait-ce qu'économiquement, c'est important. Et je pense que Lyon doit vraiment aller chercher un résultat à Karabagh pour vraiment aller chercher sa qualification dans le top 8. En plus, une qualification dans le top 8, ça éviterait le match de barrage, le match de 16e de finale. Le match de 16e de finale, c'était quoi ? C'est en janvier ou...
Ouais, c'est janvier. Il n'y a plus d'équipes qui sont...
Non, mais je veux dire, c'est des 16e directement.
C'est ça, exactement.
Ça éviterait le match de 16e de finale, donc... Il n'y a que du plus à aller se qualifier. Donc pour moi, Lyon doit tout mettre en œuvre pour se qualifier, pour gagner ce match contre Karabagh.
Merci. Et toi, Maxence ?
Alors moi, pour le coup, je suis totalement d'accord et je vais aller plus loin. Sur les 4 matchs de Lyon en Europa League, j'ai beaucoup aimé leur implication. Et pour moi, Pierre Sage, c'est totalement quelqu'un qui prend au sérieux cette compétition. Et les 2 derniers matchs, que ce soit Beşiktaş et Hoffenheim, ils font défaite et nul. Mais pour moi, c'est 2 braquages. Lyon dans le contenu.
Oui, surtout Beşiktaş.
Beşiktaş, c'était fou. C'était fou ce qu'il propose. La première mi-temps, il peut y avoir vraiment sans abuser, et je porte pas Lyon dans mon cœur, il peut y avoir 4-0. C'était un festival. Cherki, Lacazette, ils en ont tous eu, voilà, des barres, des poteaux, tout ce que tu veux. Donc là, pour moi, Lyon est facilement dans les 4-5 meilleures équipes de cette Europa League, et ils doivent remettre un petit peu l'église au centre du village en gagnant pour être dans les 8 premiers et à sa place dans cette compétition.
Merci Maxence, et je vais te demander ton avis sur Nice Rangers aussi, hein. Nice qui vont jouer à domicile face à Rangers.
Nice pour l'instant en Europa League, c'est pas top ce qu'ils nous proposent, et donc là ils vont être déjà un tournant de leur compétition, où si ça se passe mal, on va commencer à envisager une élimination précoce de cette la campagne européenne pour Nice. Moi je suis pas emballé par Nice dernièrement, même hier soir contre Strasbourg. C'était vraiment faible des deux côtés. Hein. C'était faible des deux côtés. Et Nice s'en sort voilà, grâce à un but complètement casquette. Je ne sais pas si vous avez pu le voir.
Le
mais
deuxième, là.
Ouais, c'est très, très rare de voir ça en Ligue 1 quand même. Hein.
C'est ce que je disais.
Waouh. Donc, pour moi, il n'y a rien de particulièrement encourageant dans l'appréciation de Nice hier. Et les Rangers, c'est toujours une équipe solide, même si Lyon les avait battus en Europa League au terme d'un très bon match d'ailleurs. Fofana a fait un match de dingue là-bas aux Rangers.
Ouais. Rangers voilà, qui ont l'expérience aussi de la Ligue Europa, hein, des compétitions européennes. Hein.
Pour moi, Nice, ça va pas être évident pour eux cette semaine d'aller de jouer face aux Rangers.
Et toi, Alexandre ?
Oui, là, par contre, je suis d'accord avec ce que dit Maxence. Même si Nice, c'est pas flamboyant en Ligue 1, mais ça gagne au moins. Ça reste quand même dans le top 5. Mais par contre, en Europa League, c'est vraiment plus compliqué. C'était contre la Lazio, ils avaient pris une valise. Voilà, il y a vraiment des matchs compliqués. Il y en avait eu un autre, je me souviens plus compte qui c'était. Un match compliqué de Nice.
Ferencváros,
exactement.
Ferencváros en Hongrie.
Voilà, exactement. Ils perdent ce match-là, c'était n'importe quoi. Donc, et les Rangers, voilà, comme tu as dit, Eladji, c'est une équipe qui a de l'expérience en Europe, les Rangers. Donc, faut pas sous-estimer les clubs écossais. Et voilà, je pense que ça va être quand même très compliqué pour Nice, pour le coup.
Et toi, Alfred ?
La tâche ne sera pas facile pour Nice, mais cela ne veut pas dire que Nice doit faiblir. Je sais que les Rangers, ils sont réguliers. Après, le championnat écossais, ça reste un peu beaucoup athlétique. Donc, quelque part, ça court de gauche à droite. C'est ça qui peut un peu handicaper Nice. Mais bon, s'ils se mettent bien en place, pourquoi ils ne peuvent pas revenir avec un nul ? Mais bon, Glasgow, oui, ils peuvent. Glasgow peut gagner parce qu'ils jouent chez eux, si je me trompe.
Non, c'est à Nice. Ouais. Il n'y a pas la grosse ambiance. Ouais.
Donc pour moi, je mettais une pièce sur Nice.
Merci, Alfred. Lucas.
Moi aussi, je pense que ce ne sera pas un super beau match. Je pense que de tous les matchs qu'on a évoqués jusqu'ici, ce sera loin d'être le plus flamboyant, le plus agréable à regarder. Par contre, franchement, du coup, c'est comme. Contrairement à ce qu'on a dit avec Alfred, ce ne sera pas Glasgow, donc il n'y a pas la grosse ambiance qui peut mettre la pression. Glasgow ne m'a pas impressionné ces dernières années. Donc moi, les Rangers, déjà c'est une équipe que j'aime pas, donc j'espère qu'ils perdent.
Ça coûte beaucoup, c'est tout.
J'aime pas les Rangers, je préfère le Celtic, j'aime pas les Rangers, j'aime pas comment ils jouent, j'aime pas la philosophie du club, donc voilà, j'espère que Nice, que j'apprécie pas particulièrement, les battront et puis c'est tout.
Et après, le problème, c'est que tu as souligné l'ambiance aux Rangers. Et l'ambiance à l'Alliance Riviera, quand même, c'est compliqué aussi. Hein, tu vois. C'est vraiment un stade qui est beaucoup trop grand pour,
t'es déjà allé
pour
à Nice?
Un club comme Nice. Je ne suis jamais allé à Nice, mais...
C'est une ville de retraités. C'est voilà. Un stade de retraités qui sonne vide, c'est pas étonnant.
C'est bien ce que je sais.
Puis il est compliqué d'accès en plus. Ouais, en plus pour rien,
il est compliqué d'accès. Il est beaucoup trop grand et tout. Enfin, c'est vraiment... Donc l'ambiance non plus, elle ne va pas, je pense.
Mais après, moi par contre, je pense juste pour revenir plus sérieusement que Franck Aizeux, quand même, il est en train de mettre sa patte aussi. Comme on disait, les entraîneurs qui sont arrivés, on parlait de compagnie tout à l'heure. Et c'est pour ça, je pense que ça va quand même plutôt bien en Ligue 1 pour Nice. Et je les vois bien quand même faire mieux que ce qu'ils ont fait récemment en Europa League.
Merci Lucas, excusez-moi, mais le temps court, voilà, le temps file. Et on va se rendre du côté de la Première Ligue juste après la petite virgule. Manchester City qui enchaîne une cinquième défaite consécutive, ce qui donne une grosse migraine à Pep Guardiola. Et ce qui n'est pas prêt de faire repousser ses cheveux. Les Spurs qui sont amusés réellement à l'Etihad Stadium. Et vraiment 4-0, 4 buts à 0, vraiment. Ça n'était plus arrivé depuis très très longtemps. Une défaite aussi infligeante comme ça. Et aussi, même dans la performance, aussi médiocre, hein, on peut le dire. Il se passe pas grand chose dans les matchs de Manchester City ces derniers temps, qui enchaîne aussi un septième match sans mettre deux buts. C'est très compliqué. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas?
C'est très compliqué, comme t'as dit. Moi, ce qui m'interpelle plus, c'est au-delà des résultats, c'est l'attitude. Je sais pas si vous avez fait attention sur le quatrième but. Ok, on a la 90e minute, il y a 3-0. Mais Kyle Walker, il laisse Timo Werner partir, il le regarde, il attaque pas le ballon, il le suit pas. Après, Werner, il attaque, il déborde bien et tout, mais c'est un peu le symbole de ce match où City s'est fait... pour moi, la première demi-heure, ils peuvent quand même en mettre un, ils ont des occasions, ça joue bien des deux côtés, mais ça sourit à Tottenham. Et après, ils leur marchent dessus, quoi. Madison, Kulusevski, le match qu'ils font, c'est... Ils sont bien amusés. Tottenham, vraiment, c'est un peu irrégulier encore, parce qu'ils ont perdu contre Ipswich, je crois, avant la trêve. Ouais. Et alors qu'ils n'avaient jamais perdu ce match, parce que moi, je l'ai déjà dit dans l'émission cette année, c'est une équipe qui, quand même, qui m'enthousiasme assez. Je trouve que ça joue vraiment très bien, Tottenham. On voit que Postecoglou, il a mis sa patte sur l'effectif, qu'il a des joueurs qui correspondent à ce qu'il attend. On voit des joueurs comme Pedro Porro qui s'affirme comme les meilleurs à leur poste en première ligue. J'aime bien Tottenham, mais de là aller voir gagner à 4-0 à City, enfin contre City, ouais, je ne m'attendais pas du tout. Mais finalement, ouais, ça... C'était bien. En tout cas, on a vu un beau match. J'ai pris du plaisir à les regarder.
Et toi, Liverpool qui gagne et là qui prennent 8 points d'avance sur les Citizens, qu'est-ce que t'en penses? Tu te dis que le titre est déjà joué?
Non, pas joué du tout. Comme je disais tout à l'heure, on a habitude de Première Ligue après le Boxing Day où là, c'est vraiment ça enchaîne dans tous les côtés. Moi, ce que je voudrais souligner, enfin Liverpool pour moi, c'est le favori. Aujourd'hui, à l'instant T, c'est le favori. Mais je voudrais pas enterrer Arsenal. Ça peut paraître bizarre, mais bon, on a vu l'an dernier avec Leverkusen que les losers peuvent aussi gagner. Franchement, depuis le retour d'Odegaard.
Excuse-moi, mais tu vois. Ok, d'accord. Arsenal.
Je dis juste qu'il faut pas les totalement dire que c'est que entre City et Liverpool. Il y a eu des très très belles phases de jeu Arsenal, enfin, notamment leur défense, leur arrière-gauche, que ce soit Calafiori ou Zinchenko, qui jouent quasiment milieu de terrain sur les phases de construction. Franchement, c'est du très beau football aussi. Et pour moi, de toute façon, Odegaard, c'est un des top 3 joueurs Première Ligue. Et son retour, il change tout. Donc j'imagine qu'Arsenal va arrêter de paumer des matchs comme ils l'ont fait en début de saison. Et je les vois peut-être pas champions parce que... il leur manque pour moi ce buteur qui changerait tout. Mais ouais, peut-être... en tout cas, embêter Liverpool, voire City jusqu'à la dernière journée ou la fin. Voilà, pour moi, le championnat anglais est loin d'être terminé.
Merci, Lucas. Alfred ?
Oui, mais après...
Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Manchester City, rien ne va plus du côté des Mancuniens. Et de l'autre côté, on voit franchement Liverpool qui roule un peu sur la Première Ligue. Hein. C'est le cas de le dire, avec une victoire encore ce week-end, avec un renversement de situation grâce à deux buts de Mo Salah.
J'en citerai trois clubs. Vous parlez de City, vous parlez de Liverpool, vous parlez d'Arsenal. Vous savez, le championnat anglais, c'est un championnat qui est un peu bizarre. À un certain moment donné, un club va briller. Vers la fin, il y a l'autre qui surgit. C'est-à-dire que tu peux dominer pendant, je ne sais pas, trois matchs, mais demain, on peut te battre. L'année dernière, en fin de semaine, en fin de saison, Arsenal a commencé à enchaîner les victoires. Arsenal se sentait au même niveau que City. Vous comprenez, il y avait une certaine rivalité entre Guardiola et Arteta. Donc, pour moi, si Tottenham gagne, pour moi, c'est pas surprenant parce que c'est des clubs qui ont certes motivation de pouvoir gagner, donc demain elle peut perdre. Mais donc après, City, il faut reconnaître que City est un peu à bout de souffle. Hein. Ils ont les joueurs, mais il y a un peu de fatigue qui se fait sentir. Ça ne va pas continuer tout le temps à dominer le championnat. Donc pour moi, ça reste une félicitation pour Tottenham.
Merci Alfred. Alexandre, je tiens à rappeler quand même que Manchester City, ils ont un petit point qui sépare de Arsenal et de Chelsea et même de Brighton, hein, pour vous dire hein, la performance entre voilà, Brighton qui sont cinquième hein, et qui ont juste un petit point de différence avec Manchester City. Pour dire, hein, si Manchester City fait match nul contre Liverpool ce week-end, Brighton gagne de leur côté, ils peuvent passer devant eux. Voilà, tout simplement. Du coup,
passer devant, c'est bien. Mais après, il faut tenir le rythme.
Oui, bien sûr.
C'est ça la fin de championnat anglais.
Ouais, ouais, faut tenir le rythme. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Pour être honnête, j'ai pas vu le match entre Manchester City et Tottenham, mais c'est vrai que les résultats de Manchester City me confortent dans ma décision de me dire que voilà, un joueur comme Rodri, il est ultra important pour son effectif et que le fait qu'il ait gagné Ballon d'Or, c'est peut-être pas si scandaleux que ça. voilà, ça c'était mon
Alfred
petit,
qui rigole voilà. Doucement. On va pas rouvrir
non,
une parenthèse.
On va pas rouvrir le débat, mais tout ça pour dire que moi je vois peut-être pas Arsenal parce que Arsenal pour moi ils ont vraiment la culture de la lose. C'est terrible hein, parce que c'est un club que j'aime bien Arsenal, mais ils ont vraiment la culture de la lose et je les vois vraiment pas.
Si Leverkusen l'a fait, tout le monde peut le faire. En termes de culture de la lose, il y a pas pour moi au niveau européen, c'est le numéro 1 Leverkusen.
Bah non, c'est Dortmund à la limite.
Leverkusen.
Ouais, historiquement, c'est Leverkusen. Ouais.
2002, la saison 2002, rien, c'est une saison all-time. Ouais. Et même, ils avaient une quinzaine de deuxième place sans jamais être champion. Bref, on parlera de ça d'une fois. Mais pour moi, juste tout le monde peut le faire.
Oui, bon,
et je tiens juste à dire que vraiment, le retour d'Odegaard, pour moi, ils vont enchaîner les victoires et qu'ils seront. Ils vont titiller en tout cas l'équipe qui sera champion.
Bah, ils peuvent repasser devant Manchester City. Alors, en cas de mauvais résultat de Manchester City ce week-end, Arsenal peuvent déjà passer devant Manchester City. Hein.
Oui,
Chelsea aussi. Hein, Chelsea aussi. On les oublie un peu, mais Chelsea aussi. Hein, je ne sais pas pourquoi.
Je crois pas
mais
une seconde.
Chelsea, Arsenal, ça s'est maintenu hein, un partout.
Arsenal peut faire des efforts. Moi, je suis toujours. Il faut beaucoup faire attention, c'est vers la fin du championnat que ça se décide. Ouais. C'est ça le problème au niveau d'Arsenal.
Il faut tenir, hein. Des fois ça se joue jusqu'à la dernière seconde. On a pu le voir, le mano à mano entre Liverpool et Manchester City. T'as fini Alexandre ?
Oui, non, pas grand-chose à rajouter.
Voilà. Maxence ?
Alors déjà pour commencer, City, c'est complètement dingue ce qu'on voit. On voit une équipe qui est en fin de cycle pour moi. Ce n'est pas comparable aux autres années. Où City avait des fois un petit retard à l'allumage, on sentait 4-5 matchs, des nuls par-ci par-là, des défaites, mais c'était des braquages. À chaque fois, c'était 4 d'expected goal, un corner en face, coup de tête, Stoke City, 1-0, voilà, ça ressemblait à rien.
Excuse-moi, mais quand ça perdait en Première Ligue, ça gagnait en Ligue des Champions.
Déjà. Et puis on sentait qu'une fois que la machine allait se mettre en route, décembre, janvier, voilà, ils repartaient et puis ils enchaînaient des 15-20 matchs sans défaite. Et des remontées de fou, notamment sur Arsenal. Cette année, je ne vois pas du tout ça, déjà côté City. Et le retard accumulé, il commence à être vraiment important. Là. S'il y a défaite ce week-end, ça fait 11 points. Et 11 points en Première Ligue, ça ne se rattrape pas comme ça. Il y a du sérieux tous les week-ends.
C'est ce que je pensais, hein, excuse-moi, mais c'est ce que je pensais. Hein, mais dès que j'ai vu Arsenal avec 8 points d'avance et perdre quand même le titre, je me pose des questions.
Mais
après, tout le monde n'est pas Arsenal. Hein.
Et en plus, c'était un autre City en face. C'était un City qui avait plus de certitude dans le jeu, qui avait des joueurs capables de faire des différences, que ce soit à l'époque Mahrez, qui était aussi important, que tu avais De Bruyne, qui était en feu à ce moment-là et qui était un joueur totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui.
Mahrez n'était plus là, je pense, l'année dernière. C'est l'année dernière hein, que Arsenal avait 8 points d'avance.
Non, c'était l'année dernière.
C'est l'année dernière ou Arsenal ?
Ça fait 2 ans qu'Arsenal fait la course en tête sur la majorité du championnat et qu'ils se font reprendre par City sur la fin.
Mais surtout l'année dernière,
ils avaient un gros écart. Et l'année dernière, c'est vraiment avec Doku aussi. Doku était déjà là, oui. Doku aussi qui enchaînait les belles performances. Foden aussi, Phil Foden qui a été le meilleur joueur de Première Ligue. Et là, qu'on ne retrouve plus.
Mais on sentait en tout cas un autre City. Et là, je vois Liverpool tellement sûr de ses forces et avec un matelas en fait qui va être hyper conséquent. Même si ils sont un petit peu moins bien en deuxième partie de saison, etc. S'ils commencent la deuxième partie de saison avec 11 points d'avance sur le Dauphin, je vois pas comment ça peut s'arrêter. Et c'est plutôt en fait la faiblesse des concurrents de Liverpool que vraiment les certitudes que j'ai sur Liverpool, parce que j'ai pas des grosses certitudes. Ça fait 2-3 mois qu'on les voit sur Arne Slot, c'est super, mais je pourrais pas m'engager. Mais pour moi, à part un tremblement d'air type Salah qui se fait les croisés et voilà, mais sinon pour moi Liverpool à 90% ils mettent un gros coup sur le championnat ce week-end s'ils battent City. Par contre, si City, on assiste à un réveil de City, ça relance tout parce qu'ils reviennent à 5 points et là on aura un mano à mano.
Non, ils reviennent à 8 points. S'ils gagnent, ils reviennent à 8 points.
Non, ils sont à 8 points là.
Ah oui, oui, non.
Donc,
pardon,
s'ils gagnent,
oui,
ils reviennent
à 5. Oui, oui, c'est ça. S'ils gagnent, ils reviennent à 5 points.
Donc là, ça, tout est relancé.
Oui, mais pour moi, même à 5 points, tout n'est pas relancé en vue des performances. Moi, j'avais annoncé Liverpool en début de saison. J'ai annoncé Liverpool champion de la Première Ligue. Pour moi, je disais déjà depuis l'année dernière, Manchester City, ils ont gagné le titre, mais c'était pour moi, l'année dernière, c'était à défaut qu'ils ont des... c'était pour moi, c'était parce que les concurrents étaient trop faibles l'année dernière. Pour moi, les concurrents étaient vraiment trop faibles.
Arsenal,
c'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné.
Ils ont 90 points. Ouais,
attendez,
je crois,
excusez-moi, mais à partir du moment où Saliba s'est blessé, c'était n'importe quoi. Il y a des matchs que tu ne devais pas perdre. Tu joues contre des gens qui sont limite assurés de descendre en championship. Tu joues contre eux à domicile.
Bah, ils ont eu la peur de gagner, clairement.
Tu te fais égaliser dans le dernier.
Deux matchs où...
C'est des matchs pour moi, quand tu es en champion, il y a des moments où tu ne peux pas perdre. Tu vas jouer super, tu vas jouer médiocrement, tu vas gagner 1-0 contre une équipe de bas de tableau, mais tu vas gagner quand même, tu vas assurer. Et c'est ces matchs-là qui te font gagner.
Je pense que Liverpool n'aura pas ce problème-là cette année parce que la malédiction des 30 ans sans titre, elle a été rompue par Jürgen Klopp. Donc c'est bon, ils ont effacé ça. Ils ont des mecs qui ont l'habitude de gagner, qui ont déjà gagné ce titre-là, ça l'a en tête. Et donc, moi, à mon avis, Liverpool n'aura pas la peur du champion comme Arsenal a pu l'avoir l'an dernier.
Et je voudrais revenir très rapidement, il y a très peu de personnes qui pourront s'exprimer dessus, mais Mo Salah, qui n'a toujours pas prolongé son contrat, Liverpool qui n'auront pas proposé de contrat, hein. Liverpool qui n'ont pas proposé de contrat, on ne sait pas à quoi joue Liverpool avec Mo Salah, hein, qui est clairement en feu, parce qu'en 22 matchs, il est à 14 buts et 10 passes décisives.
C'est monstrueux. Après, il a 33 ans, il a un contrat de fou. Donc je pense que s'il prolonge, c'est pas pour avoir
Deux
des
ans,
miettes.
Ouais,
ce serait au moins deux, trois ans avec un contrat XXL. Est-ce que Liverpool a envie de faire confiance à un mec de 33 ans pour les deux prochaines années en tant que leader de son attaque? C'est la question.
Pareil pour Van Dijk.
Mais de là à ne pas leur donner de contrat, c'est
ce qu'ils avaient fait avec Mané et ça leur a donné raison quand on voit ce qui s'est passé après. Donc j'aurais tendance à faire confiance.
Non, moi je pense que c'est pas. C'est avec Mané, je pense que c'est pas la même chose du tout.
Non, c'est quand même pas la même chose. Et pour moi, tout va dépendre de cette saison et du dénouement de cette saison. Parce que en fonction du dénouement de cette saison, c'est très bien qu'il y a l'Arabie Saoudite qui va proposer une grosse offre pour Mo Salah.
Et
à tout moment, le PSG,
je crois pas.
Franchement, enfin, en tout cas, il y aura les deux peut-être. Mais en tout cas, je pense que Mohamed Salah, en fonction de cette saison, peut partir en Arabie Saoudite.
Ok, on va conclure sur la Première Ligue. On rappelle le classement très rapidement. Liverpool premier avec 31 points, Manchester City deuxième avec 23 points, troisième, non, ça n'est pas Arsenal, c'est bien Chelsea qui sont devant Arsenal grâce à la différence de but. Arsenal qui complète la quatrième place, Brighton cinquième, et ça se tient, voilà, du cinquième au premier, ça se tient juste à 9 petits points. Tottenham qui suit la marche avec 19 points, pardon, sixième. Et en bas de tableau, Southampton 4 points, Crystal Palace 8 points, Ipswich qui ont 9 points, égalité avec les Wolves. On va passer à la Liga. Kylian Mbappé qui renoue avec le chemin du filet. On va se faire une petite virgule très rapidement et revenir pour conclure cette émission. La Liga, Kylian Mbappé qui se remet à marquer enfin avec un caviar servi en bouche par l'incontournable Vinicius Junior qui s'est blessé d'ailleurs. Côté Barcelone, rien ne va plus. Barcelone qui se font égaliser en gagnant 2-0. Ils se font rattraper une petite remontada en deux petites minutes avec le manque de Yamal. Peut-on dire qu'il y a une Yamal indépendance côté FC Barcelone? Quels sont vos méfaits? Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ce FC Barcelone? Qu'est-ce que vous ressentez en voyant tout a été relancé un peu plus ou moins avec Real Madrid qui ont un match en retard et qui sont à 4 points de FC Barcelone? En gagnant le match en retard contre Valence, ils pourraient revenir à un petit point du FC Barcelone. Alexandre?
Ouais, je vais faire court parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais pour moi, là, oui, la Liga est relancée. Elle est clairement relancée. Et pour répondre à ta question, c'est ce que j'avais dit avant la trêve, quand le FC Barcelone a perdu 1-0 contre la Real Sociedad. Directement, j'avais dit attention, parce que ça peut laisser penser qu'il y a une Lamine Yamal dépendance Et c'est le cas, c'est ce qui est en train de se passer. Après le match, il était maîtrisé 2-0 jusqu'à la 70e, 75e. Il fait les changements, il fait sortir Gavi, Pedri, ce qui bascule totalement le match.
Excuse-moi de te couper, mais il était complètement maîtrisé. Mais il y avait peut-être un carton rouge qui devait être donné à Martin, qui sort d'ailleurs à la mi-temps. Un de ses flics le fait sortir à la mi-temps, où il y a clairement faute sur Aspas. Et je pense qu'il lui prend la cheville avec un tacle pas maîtrisé. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a lieu d'avoir un deuxième carton jaune et un carton rouge. Alors qui là, n'a pas été donné.
Là, je suis 100% d'accord avec toi. Normalement, il y a deuxième jaune. Et normalement, le Barça doit finir à 10.
Après, bah, ils ont fini à 10, mais ils ont dû finir à 9.
Mais enfin bon, voilà, après ça s'est pas fait. C'est un fait de match qui a tourné en la faveur du FC Barcelone. Mais voilà, le match il était maîtrisé jusqu'à ce que Jules Koundé fasse cette erreur qui est vraiment très préjudiciable. Marc Cassado qui fait une bêtise aussi honteuse, qui prend son deuxième jaune. Et au final, voilà, ils se font remonter de partout. Le Celta Vigo, en plus, qui ne proposait rien, qui ne proposait vraiment rien. Et au final, voilà, c'est un don du FC Barcelone sur le Celta Vigo, donc de partout. Et puis le Real Madrid qui gagne assez tranquillement à Leganés. Seul gros point noir, c'est la blessure de Vinicius, forcément. Et voilà, c'est bon pour la confiance, en fait, pour le Real Madrid. Et c'est là que je dis que la Liga, elle est forcément relancée, du coup.
Merci. Alfred, tu peux nous dire ce que tu as pensé, toi, de la performance du Barcelone et du Real Madrid. Et on ne va pas oublier celui qui complète le podium, l'Atlético de Madrid, hein, avec un Diego Simeone qui a réalisé un 700e match à la tête des Colchoneros. Et pour une petite victoire, oui, ils ont eu chaud, comme d'habitude. Hein,
Comme d'habitude. Perdre 1-0 contre Alavés.
C'est du grand Atlético de Madrid. Qu'est-ce que vous voulez entendre avec un but de notre Français Antoine Griezmann? Qu'est-ce que t'en penses, Alfred?
Antoine Griezmann, tu veux dire?
Non, Antoine Griezmann l'a marqué avec l'Atlético de Madrid. Diego Simeone qui a gagné pour son 700e match en Liga. Mais du FC Barcelone qui font 2-2 contre Celta Vigo. Le Real Madrid qui gagne avec Mbappé qui se remet à marquer. Voilà, c'est
après,
surtout ça, quoi.
Concernant Kylian Mbappé, c'est vrai que son intégration au Real Madrid n'était pas facile. Il y a eu des périodes où il a brillé, il y a eu des périodes où ça a été passable. Pour l'instant, je pense que la tâche n'est pas facile. Quand on fait par exemple le parcours de Benzema au Real Madrid, avant lui, il y avait quand même des joueurs comme Cristiano Ronaldo qui faisaient l'ombre de tout. Donc quelque part aujourd'hui, il doit s'habituer, il doit travailler. Et puis bon, on dit que c'est le Real, hein, c'est pas des petits clubs. Donc quelque part, ça prendra du temps. Et j'espère qu'il sortira grand de ce club. Sinon, ben, voilà, ce serait décevant pour lui.
Merci.
Après l'arrivée dans Ziklitz au FC Barça, il y a eu quand même beaucoup de changements. Donc quelque part, pour moi, c'est le Barça en train de préparer quelque chose, ça va venir tout doucement. Bah, il peut avoir des périodes de chute, il faut reconnaître. Bon. Donc pour moi, je reste un peu confiant, surtout Lewandowski qui reste toujours un grand attaquant, il faut le reconnaître. Hein. Je dirais simplement que de façon honnête, il en pèse au moins 30% du club. Pourquoi? Parce que voilà, quand il y a les grandes occasions, il ne fait pas de cadeaux, il reprend présent. Donc pour moi, je pense que voilà, après, le championnat n'est pas tout à fait terminé. Donc,
il a été relancé là, voilà. Dernièrement.
Donc les deux grands favoris, c'est le Real et le Barça. Voilà, donc après l'Atlético est un peu plus loin. Diego Simeone, ça fait un bon moment qu'il est là. Il y a eu des périodes de gloire, il faut le reconnaître. Il a énormément travaillé. Il y a eu des périodes où ils ont brillé. Je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, il y a eu une année où, je crois, le titre, c'est
ils ont gagné le titre,
ils ont
gagné
le titre. En dernière journée. Ils font 100 points en 2013.
Voilà, donc tout ça, je crois que j'étais à une émission.
Mais après ça, même, ils ont gagné, donc, en tout cas, là, d'un amour, ils ont gagné le titre avec Luis Suarez en 2021, oui. Griezmann qui venait de partir pour le Barcelone et vice-versa.
Moi, je pense que c'est un entraîneur qu'il faut féliciter. Donc, pour moi, il a énormément travaillé. Il fait partie du club. Voilà, donc, voilà. Pour l'instant, voilà, c'est le Barça et le Real qui vont décider au niveau du championnat. Je pense que c'est les deux clubs qui ont pour raconter. Hein, moi, je pense. Après, voilà. Rien n'est joué, mais c'est relancé de façon honnête.
Merci, Alfred. Lucas?
Moi, je pense que si le FC Barcelone est dépendant de Lamine Yamal, le Real est encore plus dépendant de Vinicius Junior. Donc, je ne vois pas forcément le championnat être relancé. Je pense que le Barça finira par s'en sortir. Je les vois au-dessus. En tout cas, sur la régularité en championnat, je les vois au-dessus.
Il est forcément relancé, puisqu'ils reviennent quand même à 3 points. Ils ont match en retard. Enfin, s'ils gagnent,
ils ont un calendrier qui n'est pas évident.
Ils ont un match en retard.
Mais pour moi, ils vont
ça joue Bilbao. C'est dur d'aller jouer à Bilbao. Ouais,
qui ça va,
le Real doit aller jouer à Bilbao, à Gironde. Donc, pas évident. surtout sans Vinicius, entre des matchs de Ligue des Champions qui vont être au couteau, parce que là, va falloir quand même. Donc, à mon avis, le Real ne va pas faire carton plein jusqu'à Noël.
Non, de toute façon, pour moi, le Barça, cette année, il est collectivement plus fort et ça suffira en championnat pour gagner plus de points que le Real globalement. Je trouve que le Real, dans le jeu, moi, ils me déçoivent un petit peu cette année. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup les mêmes profils. Et peut-être que abondance de bien, des fois, ça nuit. Je trouve que, par exemple, on parlait tout à l'heure de Brahim, je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur. Ça pourrait vraiment être un titulaire à part entière de cette équipe. Mais il y a Rodrigo aussi, qui joue numéro 9. Il y a trop d'élite, il n'y a pas de vrai 9. Donc pour moi, même s'ils arrivent toujours à trouver une solution sur un ou deux matchs, les matchs charnières en Ligue des Champions, je pense qu'en championnat, ce sera le Barça. Et pour moi, le fait marquant, c'est plus, on en avait parlé un peu là, la déclaration catastrophique de Florentino Pérez, qui, on dirait, il était en compétition avec Rabiot pour dire
on y reviendra très rapidement. Maxence, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette journée de Liga?
Cette journée de Liga, déjà la surprise Barça, je pense pas que c'est plié hein, comme on disait. Après sur le Real, les qualités individuelles suffisent dans ce genre de match. Mbappé homme du match, je sais pas si vous avez vu le match, ce que vous en pensez.
Non, mais c'est jamais ridicule. Il doit être homme du match, on a
le nombre de ballons qui perd offensivement, les dribbles ratés,
c'est le plus. Je pense que sur le 11 techniquement, c'est le plus faible. Dans les enchaînements, contrôle, passe, dans les déplacements, c'est
parce qu'il fait tout arrêter.
Il a joué à gauche, hein,
il a joué à son poste.
Il a pas fait un bon match.
Mais arrêté,
vraiment, si on s'arrête à la feuille de match, il a mis son but, mais je pense que son but, autour de la table, on le met. Enfin voilà, il y a pas de sujet. Mais dans la production, c'est quand on voit techniquement ce que fait un Güler quand il reçoit le ballon dans les pieds, ce que fait un Vinicius. Et on a Mbappé à côté, on a l'impression d'un mec qui joue en Timberland. C'est compliqué.
Merci Maxence. On va enchaîner avec un 30 secondes chrono très rapidement sur Florentino Pérez qui fait des déclarations qui font jaser à propos du Ballon d'Or. Quelles sont vos réactions à propos du Ballon d'Or, à propos de un peu tout hein. Sur 30 secondes, vous devez nous dire un peu ce que vous avez retenu et quels sont vos ressentis. On va commencer avec Lucas. Top, c'est parti.
Alors moi, comme j'avais commencé à dire, je trouve que c'est une déclaration catastrophique. Certes, pourtant, moi, je pensais aussi que c'était Vinicius qui méritait le Ballon d'Or cette année. Ça explique pas, ça n'excuse pas autant de mépris, de donner autant d'importance à une distinction individuelle. Et voilà, comme je disais un peu avant, c'est juste une déclaration qui est catastrophique, un peu à l'image de celle de Rabiot sur le PSG. On se demandait s'ils n'avaient pas décidé de faire parler d'autre chose que du football, mais... Non, c'était nul de la part de Pérez, c'est très petit et assez décevant. Voilà.
Merci. Je rappelle Alfred, hein, Pérez qui a dit que sans les votes de ces quatre pays, Vinicius serait Ballon d'Or. La Finlande, la Namibie, l'Albanie et le quatrième, c'était...
C'est pas le Mozambique.
L'Angola, non, c'était pas.
Non, c'était pas l'Angola non plus.
Ah, Ouganda.
Ouganda, exactement. Ouganda. Merci. Voilà, qui dit que sans le vote de ces quatre pays-là, Vinicius serait Ballon d'Or et que il ne connaissait d'ailleurs pas ces journalistes et que il y a d'ailleurs un journaliste finlandais qui a démissionné, celui qui a fait le vote, il a démissionné juste après, il a dit « Ah, au moins lui il a démissionné et j'apprécie ». Et c'est ce qu'il a dit et il disait que Rodri méritait le Ballon d'Or en 2023 et pas cette année-là que c'est Vinicius qui le méritait. Qu'est-ce que tu en penses de ces déclarations?
Je partage pas l'avis du président, il est mauvais perdant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des cas d'injustice régulièrement. Ribéry a terminé en championnat, il n'a pas eu le Ballon d'Or. Neuer a terminé en championnat, il n'a pas eu Lewandowski. Donc, mais le fait d'avoir gagné la Coupe d'Europe des Nations, voilà, déjà quelque chose de très fort pour pouvoir ne pas lui donner. Maintenant, comme je dis, Vinicius, il a travaillé. Mais ces gens d'injustice, c'est pas nouveau. Donc, je pense que le président doit accepter avec le résultat des votes. Et de ne pas critiquer. Voilà.
Merci Alfred. On va passer à Alexandre. C'est parti, top chrono.
Bah, déjà, franchement, comme j'ai dit, je le répète, c'est pas un scandale le Ballon d'Or pour Rodri. En plus de ça, quel message t'envoies au reste de ton effectif quand t'as un Bellingham qui était dans les starting blocks pour remporter le Ballon d'Or. Pareil, tu as un Carvajal qui a fait une saison extraordinaire. Quel message t'envoies quand tu récompenses que Vinicius? D'autant plus, je vais aller plus loin, il a parlé aussi du meilleur centre de formation du monde qui est soi-disant la Fabrica du Real Madrid, ce qui est totalement faux parce que tout le monde sait que c'est la Masia et en plus il ment sur les chiffres. Et je terminerai sur Carlo Ancelotti qui nous a dit que derrière Lucas Vazquez et Carvajal, c'était Valverde meilleur latéral
droit. Merci Alexandre. On va enchaîner avec Maxence. Vas-y Maxence, top chrono, c'est parti.
Pour moi, Florentino Pérez, ça fait mauvais perdant, ça nuit à l'image du Real et il n'en sort pas grandi de cette déclaration-là. En plus, pour moi, il est fautif sur le non-ballon d'or de Vinicius parce qu'il aurait dû faire du lobby comme il l'a si bien fait avec Modric, avec Cristiano, toutes ces années-là où il remportait des ballons d'or qui étaient contestables ou non. Cette année, en fait, il n'a juste pas choisi son camp entre Bellingham et Vinicius, donc il n'a pas fait de... Il n'a pas fait monter la sauce politiquement comme il sait très bien le faire. Et donc voilà, il peut s'en prendre qu'à lui-même, même si je pense que Vinicius aurait dû avoir le Ballon d'Or. Il n'y a pas de scandale et voilà.
Merci Maxence, merci Alfred, merci Alexandre et merci Lucas. Merci à Léo, à la technique. Je vous remercie, vous qui sont en train de nous écouter, madame et monsieur et jeune fille et jeune demoiselle et jeune homme. Merci à tous en tout cas et on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine avec de très gros matchs. Soyez très attentifs à cette semaine de football. Merci et bonne soirée à vous.